Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et on est aussi avec Exerve.
Hello.
Salut messieurs, je suis content de vous retrouver en ce lundi matin. Hein, c'est la première fois je crois qu'on enregistre un lundi matin. Moi je suis très content de commencer la semaine avec vous. Alors les gens vont terminer la semaine avec nous, mais voilà, je suis content, ça me donne une bonne énergie comme ça le lundi.
C'est bien tu vois, de leur donner le contexte comme ça d'enregistrement. On le rappelle, moi j'utilise un magnifique paquet de huile ou crème oignon pour le pied de micro, puisque j'ai oublié ma vis, mais voilà. Tout va bien, une bonne semaine qui commence.
Voilà. Les photos sont sur le compte Twitter.
Exactement,
hein, si vous pouvez les voir.
Vous pourrez retrouver ça sur nos réseaux. Et alors juste avant de commencer, on voulait vous parler de quelque chose d'assez important. La formule de fin du game évolue. Cette fois-ci, on va parler de chips. Non, alors, on va en fait lancer un salon Discord pour l'émission. L'idée, c'est de faire de ce salon en fait une espèce de club de lecture. En tout cas, c'est un peu inspiré de ce modèle-là, puisque finalement, dans fin du game, toutes les deux semaines, on se retrouve pour parler d'un jeu dans son entièreté. On s'est dit que y a pas mal d'entre vous déjà qui voulaient quand même savoir de quoi on allait parler au fur et à mesure des épisodes. Ne serait-ce peut-être que pour se remettre un peu dans le bain des jeux dont on va parler ou les faire, tout simplement, puisque comme nous, on l'imagine, vous avez un backlog rempli à ras-bord et plein de trucs à faire, donc voilà, ça peut être une bonne excuse. Et l'idée, en fait, c'est de se retrouver sur ce Discord. Là, vous saurez, en fait, de quel jeu on va parler dans les deux épisodes qui suivent. On s'est à peu près mis d'accord là-dessus, je crois.
Ou pas, d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous pouvez rejoindre le serveur Discord pour discuter des épisodes qui sont déjà sortis, en spoil, etc., etc. Et si vous le souhaitez, il suffira de nous demander, on vous fera un petit statut, on aura les statuts. On n'a pas encore trouvé les noms, on est en train d'y réfléchir. On a engagé une équipe marketing incroyable sur le wording de tous ces trucs, mais vous pourrez, en fait, si vous le voulez, savoir le sujet des prochains épisodes. Et on comptera évidemment sur vous pour pas le répéter aux petits copains, sachant que les astres se sont alignés, puisque depuis quelques jours, la fonction spoiler est enfin disponible dans Discord. Mmh. Voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez entre deux points, et du coup, il y aura une petite barre noire qui apparaît comme sur le reste du monde, et puis comme ça, c'est du spoil, les gens, ils doivent cliquer pour savoir s'ils veulent savoir ou pas.
C'est beau. On est qu'en 2019. Hein.
Ouais, incroyable.
Discord a
enfin la fonction spoil. Oui, mais bon, ils avaient des gifs animés depuis 2 ans et c'est le vrai, lien avec Giphy, donc c'est tout ce qu'on leur demandait. Hein.
Ah, d'ailleurs, Maxime qui nous a préparé des emojis personnalisés pour ce truc. C'est devenu un emoji artiste, moi, je dis Maxime.
Là, clairement, je pense que c'est l'argument numéro 1 des gens pour nous rejoindre sur Discord. Et si vous voulez nous rejoindre, du coup, on vous mettra le lien de l'invitation à chaque fois dans les épisodes, parce que les liens ont tendance à expirer au bout d'un certain nombre de temps. Donc, à chaque fois, que ce soit sur Twitter ou sur la page Pipa ou dans la description de vos podcasts sur vos applis préférées, vous pourrez à tout moment le faire. D'ailleurs, merci beaucoup puisqu'on est de plus en plus mieux, référencé.
Ouh, tout à fait.
Tu vois, j'ai vu sur Podcast Addict, on est bientôt à 400 abonnés, ce qui moi me paraît déjà ouf. Et puis, on l'a déjà dit, sur iTunes, il y a pas mal de monde qui nous fait également des bons retours. Donc merci beaucoup pour ça. On va continuer à enrichir un petit peu la formule. L'idée du club de lecture, je pense qu'on est tous bien chauds pour ce truc-là, un peu avec nos petits thés, c'est un peu cosy comme ça, un peu posé, c'est pas mal.
Non ouais, c'est vraiment l'idée de faire ça. Et puis pourquoi pas, en fait, vous en discutant sur les jeux qui vont arriver, peut-être que c'est une bonne manière de nous apporter des perspectives qu'on n'aurait peut-être pas vues, des références qu'on n'aurait peut-être pas, et ça viendra peut-être enrichir les épisodes à l'avenir, quoi. Donc ça peut être cool.
Puis en plus, comme on parle souvent de petits jeux entre guillemets, on a parlé de Firewatch, on a parlé d'Inside, ça c'est des jeux qui se terminent assez rapidement, donc je pense pour certaines personnes ça peut être un petit peu la petite chose qui fait pencher.
Le bon prétexte,
c'est ça,
pour se relancer, pour ressortir les jeux du backlog de Steam ou de vérifier que vous aviez eu 43 000 clés dans vos derniers Humble Bundle que vous n'avez pas racheté depuis 2012, mais vous pourrez faire les jeux à ce moment-là.
Alors, cette fois-ci, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Alors, je suis youtubeur, j'ai le droit de le dire. Mais pour deux raisons. D'abord, parce qu'on va parler de Détroit. Et c'est le
Détroit
premier
Become
jeu...
Become Human.
Excusez-moi.
Voilà, ouais, le nom complet.
Detroit Become Human. C'est le premier jeu qu'on a dû tous les trois faire spécialement pour l'émission. Alors, pour vous donner un petit peu le lore, la backstory, c'est qu'en fait, on s'était organisé, on avait trouvé une espèce de liste. Mais on s'était dit, Détroit, on l'a pas fait. Tous les trois, mais on pense que ça pourrait être un bon jeu pour l'émission, parce que c'est un jeu qui a des prétentions, en tout cas en termes de narration et d'histoire, et ça collerait bien à ce qu'on fait dans Fin du Game, donc on s'est dit, on va le faire, donc c'est la première fois.
Et en plus, Hugo et moi, c'est notre premier Quantic Dream.
Tout à fait, exactement.
Donc il y avait un peu cette curiosité, ce côté un petit peu découvrir un pan du jeu vidéo.
Moi, c'était mon cinquième. Voilà.
Et la deuxième raison, vous pouvez commencer à la percevoir dans la voix d'Exerve. Et bien la deuxième raison qui rend cet épisode spécial, c'est que c'est le premier jeu pour lequel on a un ressenti un peu plus mitigé, on va dire. Je fais des euphémismes pour l'instant.
Alors moi, j'avais pas trop accroché à God of War, mais ça m'a pas empêché de voir un peu toutes les intentions qu'il y avait derrière. Ouais. C'est vrai que à y jouer, j'étais pas forcément fanat. Là, la différence, c'est qu'effectivement, bah, tous les trois, on s'est dit, en fait, non.
En fait, non. Bah, du coup, bah, merci de nous avoir écoutés.
C'était l'épisode le plus court de la série.
Ouais, du coup, on l'a pas fini. Non, je plaisante.
Si, si, on l'a bien fini. On allait tous les trois au bout. Et juste pour dire, finalement, bah, ça va être un exercice un petit peu différent pour nous parce que, bah, on va parler d'un jeu d'une manière un petit peu moins élogieuse qu'on a pu le faire jusqu'ici.
Mais ça va pas changer les codes. C'est-à-dire qu'on va rester dans l'analyse. À chaque fois, on va évidemment s'appuyer sur des arguments, essayer de vous expliquer ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas d'après nous. Hein, on est toujours dans la même idée de prendre du recul. On va pas commencer à critiquer ou insulter gratuitement. On va essayer de le faire, mais de manière, justement, intelligente pour voir ce qui fonctionne ou pas dans Détroit, parce qu'il y a des choses évidemment qui marchent bien, il y en a d'autres qui marchent moins bien. Ça sera évidemment, vous allez le voir tout au long de l'émission.
Et je rappelle à toute fin utile que prendre du recul, ça veut pas dire être objectif, puisqu'on sera subjectif quand même. Hein. Il y a des moments où on va vraiment dire ce que nous on a vu, ce que nous on a ressenti. Que ce soit quand on dit du bien d'Inside ou du mal de Détroit, ça reste quand même un petit peu notre vision du truc, un petit peu notre subjectivité. Donc voilà, pas de.
De toute façon, l'objectivité, on va le rappeler, hein, c'est toujours un truc qui n'existe pas. Ouais. La seule façon d'être objectif quand on parle dans une vidéo, c'est de décrire ce qui se passe, sachant qu'en plus on n'est même pas tous exactement pareil par rapport aux couleurs, par rapport aux choses, donc de toute manière l'objectivité c'est très très complexe comme sujet et nous ça nous fait beaucoup rire. Enfin moi particulièrement parce que ayant été testeur forcément à chaque fois on me dit ah oui ça c'est un test objectif
et bah, nous aussi on
un test objectif tu vois c'est comme une sombre clarté tu vois c'est
non ça ne fonctionne pas
ça on va éviter d'être trop gratuit voire comme je disais insultant tu vois même s'il y a des choses qu'on a pu vraiment
qu'on
ne
a
pas
envie
aimer,
d'insulter
il y a des choses qu'on a vraiment pas aimé mais c'est vrai que ce qu'on essaie de faire un minimum avec Faire du Game c'est prendre donc un minimum de recul même si moi je peux bien aimer tu vois le cynisme et la punchline c'est quand même ce qu'on retrouve déjà trop en fait dans le jeu vidéo je trouve ça. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est qu'il y a que, je trouve qu'il y a quasiment que ça, en fait, dans les discours un petit peu qu'on peut voir en général autour du jeu vidéo, que ça fait du bien un petit peu de prendre du recul et de pas juste être méchant pour être méchant. Après, voilà, on va quand même,
on va pas vous dire à la fin de l'émission, faites le jeu, ça, on va vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire, ou si vous le faites, faut vous attendre. Mais effectivement, c'est pas ça qui va nous faire qu'on va être, comme tu dis, grossier ou insultant gratuitement, parce qu'en plus, il y a une forme d'attachement au jeu vidéo qui existe depuis plusieurs années, donc pas mal de gens ont tendance à se sentir peut-être blessé, tu vois, ou même agressé personnellement si on n'aime pas les mêmes choses qu'eux. Donc nous, vraiment, on essaye de se détacher de ça. On le savait de toute façon en lançant le concept de Fin du Game qu'on n'allait pas toujours parler de jeux qu'on a aimés, ça c'est le principe, mais l'objectif c'est justement de le faire de manière calme, posée, et d'en discuter, peut-être avec vous du coup, sur le salon Discord d'ici quelques jours.
On est donc parti, Détroit dans Fin du Game, Maxime, petite musique. Ok, alors Détroit, c'est un jeu qui est fait par Quantic Dream, dirigé par David Cage. Alors, comme tu l'as dit, Maxime, moi, j'avais pas du tout fait des jeux Quantic Dream avant. Et toi, Xerf, tu connais peut-être un peu mieux. Est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu la sortie de Détroit ?
Eh ben, alors la sortie de Détroit, donc 2018, un projet qui a été lancé dès 2012 à la toute fin du lancement de Beyond Two Souls, qui était leur quatrième jeu. Donc ils ont fait 5 jeux, Quantic Dream. Hein. C'est un studio qui a été créé en 97 par David de Grutola, alias David Cage, et Guillaume de Fondomière, alias Guillaume de Fondomière, qui donc est situé à Paris, et qui dès le début se sont quand même pas mal illustrés par une approche complètement, à l'époque, totalement originale et atypique du jeu vidéo, puisque leur premier jeu c'était Omicron The Nomad Souls qui était sorti donc sur Dreamcast et PC. Alors ce qu'on en retient aujourd'hui c'est le fait qu'il y avait David Bowie qui était directement intégré lui et sa femme pour à l'intérieur du jeu et qui d'ailleurs avait fait des chansons etc pour le jeu. C'était surtout un jeu très original dans la mesure où le joueur à chaque fois qu'il mourait changeait de personnage qu'il incarnait et du coup quand il changeait de personnage tu jouais un skater, derrière tu jouais un flic, derrière tu jouais autre chose, t'avais pas du coup les mêmes fonctions de gameplay. Ça c'était une approche qui était extrêmement originale à l'époque et ça a été un peu leur leitmotiv depuis puisque dans la foulée quelques années plus tard ils ont fait Indigo Prophecy ou Fahrenheit chez nous. Qui là était déjà on va dire la préquelle de ce qu'on a connu dans Heavy Rain, c'est-à-dire des jeux avec un gameplay qui s'efface petit à petit pour faire place à de la narration puisque l'objectif de Quantic Dream depuis le début c'est de démocratiser le jeu vidéo auprès d'un public qui n'est pas du tout connaisseur du jeu vidéo et c'est pour ça en fait qu'ils suppriment petit à petit les fonctions de gameplay, et c'est devenu leur formule même, on va dire, canonique avec Heavy Rain, donc qui est sorti sur PlayStation 3, où là, en fait, on était que dans du QTE, c'est-à-dire du quick time event, hein, le fait de réagir au bon moment en appuyant sur la touche au bon moment, pour justement limiter le fait d'utiliser des touches, de marteler des touches, etc. Puisque bon, David Cage, il en parle régulièrement dans ses conférences, c'est quelque chose pour lui, le fait de marteler les touches, qui participe à faire du jeu vidéo quelque chose d'abrutissant, c'est son opinion, hein, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, mais du coup, son postulat de départ, c'était d'expliquer que justement, en enlevant cette surcouche-là un peu brutale, agressive parfois du jeu vidéo, il allait pouvoir proposer quelque chose où les gens allaient être plus investis émotionnellement, allaient ressentir plus d'empathie pour les personnages, et c'est pour ça que Heavy Rain avait marqué à l'époque, puisque ça mettait en scène l'enlèvement, enfin en tout cas un serial killer qui enlevait des enfants, donc c'était quelque chose, des sujets qui, pour le coup, en 2007, 8, j'ai plus la date exactement de Heavy Rain. Alors, 2009, non, 2009, Heavy Rain. Si je dis pas de bêtises, 2009 ou 2010.
Ben, je vais chercher, ouais. Vas-y.
Mais continue. C'était très original, encore une fois. On était encore dans des sujets qui étaient rarement abordés. Depuis, le jeu vidéo a pas mal embrassé cette idée de la narration et de la possibilité de faire des jeux avec de l'histoire et moins de gameplay. Eux, ils ont continué cette histoire-là en augmentant, en fait, la production de leur jeu, puisqu'ils ont fait après, donc, Beyond Two Souls, qui était un jeu qui a marqué, en fait, la fin de la PlayStation 3, parce que, à l'intérieur, il y avait quand même deux très très grands acteurs qui jouaient les rôles principaux, donc Willem Dafoe et Ellen Page, c'est quand même des sommités et des c'est des géants, hein, du cinéma, donc c'était vraiment un pari pour le studio de réussir comme ça à intégrer des acteurs. C'est quelque chose qu'on voit désormais plus régulièrement, hein. On avait Kevin Spacey dans Call of Duty, on a effectivement Kojima là qui s'éclate avec ses copains pour faire Death Stranding, et c'est quelque chose maintenant qu'on va voir de plus en plus, c'est normal, hein, on a Terry Crews dans Crackdown 3, voilà, comme ça on ne pourra pas être accusé de ne pas parler de toutes les plateformes. Et du coup, ils ont gardé ce principe-là pour Detroit, qui est sorti donc, en fait, qui a d'abord été démarré à la fin de la PlayStation 3. Entre-temps, Sony s'est dit, on va sortir une nouvelle console. Du coup, ils ont dû redémarrer le projet de zéro. Ils ont lancé en parallèle cette démo de Kara. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vraiment, à l'annonce de la PlayStation 3. C'était une démo technique, vraiment, pour montrer une scène qui ressemblait évidemment énormément à l'intro de Ghost in the Shell, où on voyait un robot se faire créer et nous parler à la toute fin. Et du coup, tout le projet D3 a été repris de ça. Ouais. Et c'est donc arrivé en 2018. Ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'ils ont dépassé les 2 millions de ventes il y a quelques temps. Ça a été l'annonce.
J'ai lu juste plus récemment, c'était Guillaume de Fondomière, ils approchent des 3 millions.
Ils approchent des 3 millions, donc c'est quand même plutôt des bons résultats, parce que du coup ça va être leur jeu le plus vendu de leur histoire. Et ils ont également récemment annoncé, donc ça c'est vraiment la toute dernière partie du contexte, on en reparlera au fil de l'eau, qu'ils allaient arrêter d'être dans le giron de Sony, puisque c'était que des exclusivités PlayStation avant. Depuis Heavy Rain, ils étaient dans le giron de Sony.
Il est sorti en 2010.
2010, merci Max, putain, Wikipédia est avec nous.
Ouais.
Et du coup, ils s'associent avec NetEase, un titan, vraiment un gros titan chinois. Donc c'est assez curieux, mais ça va leur permettre, eux, de se mettre sur plusieurs plateformes. Donc évidemment, ça va être intéressant de voir la suite de Quantic Dream, qui reste un des plus anciens studios français, en tout cas avec une aura internationale aussi grande.
Oui, parce que c'est 200 ans, enfin c'est une grosse boîte, hein, quand même.
Ah oui, c'est une énorme boîte,
plus, peut-être. Donc,
pendant très longtemps, c'était un des rares, voire même le seul studio de mocap aussi avancé, donc de motion capture avancé en France. Maintenant, c'est même encore plus évolué, puisque du coup, ils font de la performance capture avec le visage, etc. Donc c'est en plus un fleuron. C'est souvent mis en avant par l'industrie du jeu vidéo comme étant une espèce de fleuron technologique, puisqu'ils ont accès à pas mal de trucs que les autres n'ont pas.
Et ils vont d'ailleurs embaucher encore plus, parce qu'ils disaient qu'avec NetEase, a priori, ils vont sûrement changer du modèle un jeu tous les quelques ans. Ils risquent de bosser sur plusieurs projets en même temps. Donc on ne sait pas encore la taille de chacun. Mais un truc qui avait été impressionnant, c'était que Beyond Two Souls a été développé en moins de 3 ans. Tu vois, genre presque 2 ans et demi. Alors que D3 a mis, bon, après,
ça se ressentait à l'arrivée.
C'est un studio, de toute façon, un petit peu avant la sortie de D3, il y avait les affaires Canard PC, Le Monde et Mediapart qui avaient mis en avant justement les conditions de travail chez Quantic Dream. Et le crunch était une des choses qui sortait parmi beaucoup d'autres.
Oui, voilà, sachant que bon, de toute façon, tout ce qui est crunch et conditions de travail, c'est un truc qui traverse le jeu vidéo depuis quelques années. Là, c'est vrai que Quantic Dream, ils se sont fait épingler là-dessus, c'est évidemment pas les seuls. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le courant de l'émission, mais voilà, ça vous permet de revoir un petit peu Quantic Dream qui c'est. Dans le paysage français, c'est important, mais également dans le paysage du jeu vidéo de manière globale, c'est un studio qui a essayé quelque chose d'innovant, c'est-à-dire de proposer, à une époque où on n'avait que des jeux de shoot, de proposer autre chose. Et ça, c'était, c'est quelque chose qu'on ne veut pas leur enlever.
Oui, en tout cas, exactement. Ils ont une vraie identité. et Détroit s'inscrit vraiment dans ce qu'ils ont essayé de faire depuis toujours, quoi, et vraiment dans la continuité, toi qui as fait les jeux.
Ah bah oui, parce que depuis Fahrenheit, on sentait déjà la mise en place de ce truc-là, et avec Heavy Rain, ils ont commencé une formule dont l'aboutissement, c'est Détroit, parce que Détroit, clairement, il va très loin, on reste dans des jeux avec des embranchements, là en plus, ils sont allés plus loin, puisqu'on voit les embranchements qu'on peut déclencher, et c'est d'ailleurs, je pense, un des premiers trucs qu'on va retenir, mais avant, peut-être qu'on va vous parler de l'histoire.
Oui, on va revenir un petit peu brièvement sur l'histoire de Détroit. Donc on est en 2039, il me semble, Détroit, Motor City, aux États-Unis, et les androïdes vivent avec les humains. Donc il y a des androïdes qui sont complètement, qui nous ressemblent en tout point, si ce n'est qu'ils ont une petite diode sur le côté. Et en fait, le jeu va nous faire suivre le destin de trois de ces androïdes. Ça va être Marcus, Connor et Kara. Donc Kara, qui est le même personnage en fait, qui avait fait la démo à l'E3 à l'époque. Et on va commencer, pour présenter simplement les choses, je vais vraiment faire grossièrement les arcs narratifs en fait des trois personnages, parce que évidemment, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui a énormément d'embranchements, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'on ait tous fait un jeu différent en fait, parce qu'il y a tellement d'options possibles que globalement on fait tous des choses différentes. Mais par contre, il y a quand même un vrai cadre qui est là, et on va tous passer par les mêmes chapitres. C'est-à-dire que c'est pas un arbre qui part dans tous les sens, c'est un arbre qui monte, c'est plus une liane en fait qui s'entremêle plutôt qu'un arbre dont les branches partent de tous les côtés. Il n'y a pas une moitié d'un jeu que quelqu'un a fait et l'autre moitié, on a tous vu plus ou moins les mêmes choses. Et donc, on va commencer par Marcus. Donc Marcus, qui est un espèce d'aide-soignant, en fait, à un vieux monsieur qui est peintre, qui était peintre et qui continue un petit peu à peindre. Donc il s'occupe de lui, il le déplace sur sa chaise roulante, il lui donne à manger, il va lui chercher des pots de peinture. Et en fait, suite à une espèce de dispute avec le fils du peintre, qui est un petit peu le fils pourri gâté...
C'est un junkie, tu sens qu'il essaye en fait de lui racketter son pognon, etc. Malheureusement, il y a un accident. Marcus, en fait, tout simplement, est jeté.
Ouais, il est mis à la poubelle littéralement.
Par la police, il est jeté dans une décharge.
Dans une décharge, c'est ça. Et du coup, il va perdre ses jambes, ses yeux, il va perdre quelques parties de son corps. Mais il va s'en sortir parce qu'il va pouvoir récupérer sur les autres robots qui sont dans la décharge. Il va prendre des jambes par-ci par-là, il va se remettre un autre œil, il va se reprendre un cœur et il va se sortir de cette décharge.
Ouais, donc, juste avant, quand même, point ciné, il est devenu déviant. Enfin, il y a quand même quand le fils s'est mis à un peu attaquer son père, il est un peu sorti de son. C'est un truc qu'on va retrouver, attention, chez toi.
Sachant que le concept de déviance est très particulier dans Détroit. En gros, c'est quand les androïdes commencent à avoir des comportements qui sont tellement proches des humains qu'ils deviennent indissociables des humains.
En fait, ils dépassent leur programme, en fait, comme les robots habituellement, ils peuvent pas attaquer des humains, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas faire, et en fait, ils deviennent déviants en brisant cette espèce
de cadre virtuel qui les enferme, et donc ils brisent ce cadre, et finalement, il va se retrouver un peu accusé de la mort du mec, parce qu'il meurt, finalement.
Un bête accident, il tombe, et donc il se réveille dans cette décharge, il va récupérer ses petites parties, et surtout il va partir en fait en quête, parce qu'on l'avait déjà informé d'une existence d'une espèce de cellule, ce qu'on appelle Jericho, qui serait donc une cellule de petite poche de résistants, d'androïdes déviants qui vivent entre eux.
C'est une espèce d'endroit, une espèce de refuge pour les androïdes qui ont été jetés par les méchants humains, et il va donc se mettre en quête de trouver Jericho, il va le trouver, et effectivement il va tomber sur un groupe d'androïdes qui se cache finalement des humains, mais lui, Marcus, ça lui plaît pas trop de se cacher, parce qu'il est pas trop d'accord, il en a marre d'être opprimé par les humains, et donc il va leur arriver plein de petites péripéties, ils vont aller braquer Cyberlife, donc Cyberlife qui est la boîte qui fabrique en fait les androïdes, il va aller voler des poches de sang bleu pour maintenir tout le monde à flot au sein de Jericho, ils vont aussi s'attaquer au TF1 local.
Parce qu'en fait il va devenir petit à petit leader
c'est même pas petit à petit,
quasiment instantanément, on parlera de mise en scène un peu plus tard. Il devient leader du groupe de Jericho, et effectivement ils veulent envoyer un grand message, donc ils attaquent la tour de TF1, et enfin on appelle ça nous la tour de TF1, mais c'est pas ça dans le jeu, c'est la tour d'une grande chaîne de télé locale à Détroit, pour envoyer le message que les robots existent, il faut les aimer aussi comme les insectes, et après en fait là le joueur va avoir la possibilité de choisir la manière dont Marcus va mener cette révolution, soit de manière agressive, soit de manière pacifique, et ça va du coup évidemment faire évoluer la situation pour lui, mais également pour les autres, puisque du coup sur les traces de Marcus on a Connor,
Oui, tout à fait. Alors après, ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que Marcus, finalement, ça va déboucher donc soit côté agressif, bah ils prennent la ville de Détroit et ça finit. Détroit, c'est chez les robots maintenant, les humains dégagent. Ou alors en mode pacifiste, c'est moi je l'ai pas fait en pacifiste.
Bah il y a plusieurs embranchements, mais tu peux parce que je crois que dans les deux cas, tu te retrouves en fait acculé contre un mur. Et si t'es révolutionnaire, tu peux faire péter la ville, la rendre un peu nucléaire, il me semble. Et du coup, comme tu dis, c'est la ville des robots. Mais si t'as été plutôt pacifique, t'as plusieurs embranchements. Tu peux te mettre à chanter une espèce de chanson de gospel et apparemment ils te tirent pas dessus. Tu peux embrasser Nord, il te tire pas dessus. Moi, la fin que j'ai eue, en tout cas, il s'est immolé. En gros, il s'était sacrifié et en fait, il prend feu devant les.
J'ai réussi à le faire survivre, moi, du coup. Marcus, il a survécu et en fait, à la fin, il est sur une estrade avec des officiels de la ville et il fait un discours super pacifique où il tend la main aux humains.
D'accord.
Alors qu'il les avait tués, il les avait parqués dans des camps, etc. etc. quoi.
Bah, moi, il s'immole et à la fin, t'as les journaux qui, vont retransmettre la parole de la présidente qui dit genre, bon, on va commencer à se questionner un petit peu sur le droit des robots, donc c'est plutôt une happy end en ce qui concerne
si tu joues agressif, bah, les robots prennent la ville, et si tu joues de manière pacifiste, bah voilà, il va avoir une espèce de compromis qui va.
Et on peut déjà noter dès maintenant que la conséquence est la même, c'est-à-dire que tu sois agressif ou pacifique, à la fin, de toute façon, les robots gagnent une espèce d'autonomie, qu'elle soit par la violence ou par la discussion pacifique.
Tout à fait. Et effectivement, tu avais raison, donc on est rejoint aussi par un autre personnage, mais tout à la fin, donc ce personnage c'est Connor, alors lui il a un arc totalement différent, puisque lui, bah, c'est un petit peu le Blade Runner, entre guillemets, puisque c'est un androïde qui va aider, en fait, à enquêter sur les androïdes qui deviennent déviants. Donc, il va avoir des androïdes qui tuent leur propriétaire, d'autres qui s'enfuient. Et donc, lui, il va assister l'enquête là-dessus, sur cette déviance. Il va bosser avec Hank, qui est donc qui est le flic un peu hard-boiled, hein, comme on les qualifie, c'est-à-dire le mec, il est alcoolique, ronchon, il est pas content.
Il aime pas les androïdes.
Et bien sûr, il déteste les androïdes.
Il est suicidaire.
Black metal.
Il écoute du black metal très fort dans sa vieille voiture. Voilà, il a les cheveux crado. Il
porte des chemises hawaïennes.
Et bien sûr, évidemment.
Et une veste en cuir.
Évidemment.
Voilà, et donc, il était brillant et il est devenu alcoolique après la mort de son fils.
Mais il est toujours brillant sous cet océan de médiocrité.
C'est ce qu'on nous dit, effectivement. Ouais. C'est ce qu'on nous dit.
Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté.
On en parlera plus tard.
Et donc, forcément, il se retrouve à enquêter, en fait, sur deux crimes. Donc, à la fois la mort du fils du peintre, hein, puisque du coup, il va. Il suit pas, en fait. Non, c'est pas ce crime-là, en fait. C'est le fait que Kara s'en aille.
Il y a plusieurs enquêtes. Il y a un androïde qui a tué son propriétaire au couteau. Ensuite, t'en as un. Apparemment, il s'est enfui. Il vit dans son espèce de truc avec tous ses pigeons là qu'on chiait par terre partout.
Ouais.
Et puis, en fait, il va aussi se retrouver enquêté sur Kara, donc qui est le troisième personnage. On en parlera après. Donc, finalement, lui, toutes ces séquences, c'est des petites enquêtes finalement qui vont mener aussi dans un club de striptease. À chaque fois, en fait, il va tomber vers des androïdes qui sont déviants jusqu'à qu'ils finissent par enquêter sur Marcus et qu'il essaie de le retrouver à Jéricho. Et finalement, là, lui aussi va avoir le choix soit devenir déviant et rejoindre Marcus dans sa lutte, exactement, soit rester vraiment en mode androïde fidèle à Cyberlife. Et je crois qu'il va essayer de le tuer. Hein.
Il peut le tuer
même jusqu'à la fin. Même une fois que tu es devenu déviant, en fait, à la toute fin, il y a un petit twist pendant que Marcus commence son discours. Toi, tu as la caméra qui se remet sur Connor et tu te retrouves à nouveau dans son temple mental, puisque régulièrement, en fait, alors c'est pas présenté comme étant un truc virtuel, mais tu le comprends dans la disposition des lieux. Régulièrement, en fait, Connor va se retrancher en lui-même et il va parler donc à sa créatrice qui est présentée comme une espèce de patronne de Cyberlife, ou en tout cas d'une des personnes clés de l'entreprise, et elle va lui expliquer qu'en fait il avait été infiltré par une sorte de ver qui fait que quand c'était prévu qu'il devienne déviant, c'était anticipé et que du coup il allait en fait devoir tuer Marcus à la toute fin. Et là, en fait, tu peux choisir ou non, et tu peux réussir ou non à t'enfuir et à quand même rester déviant et à ne pas tuer Marcus. Donc c'est un peu un coup d'épée dans l'eau de la part de Cyberlife. Mais voilà, c'est vrai que Connor, lui aussi, il est face au choix de devenir déviant, mais très tard dans l'histoire.
Tout à fait. Et enfin, on a Kara, et là, c'est vraiment les malheurs de Sophie, puisque donc Kara, c'est une... aide ménagère, on va dire, c'est vraiment la robot, l'androïde à tout faire, quoi. Tu l'achètes, elle te fait à manger, elle
s'occupe de ton gamin, elle fait la table, elle fait la vaisselle, elle fait la cuisine, elle fait les courses.
Et elle est la propriété de Todd. En fait, le jeu s'ouvre de manière d'ailleurs assez intéressante. En fait, on voit, on est dans le magasin Cyberlife, en fait, elle a été réparée. Et en fait, on voit à travers ses yeux, on voit Todd, donc le propriétaire qui arrive, qui explique qu'est-ce qui s'est passé, l'accident, on ne sait pas. On ne sait pas trop ce qui s'est passé.
Elle est tombée dans les escaliers.
Voilà, elle est tombée dans les escaliers. Alors, je ne sais plus si c'est ça, mais en gros...
Non, mais si j'imagine que c'est ça.
Je crois. Mais oui, c'est un truc.
Alors prétexte. Que le type, c'est comme Hank, tu le vois tout de suite. Enfin,
ouais, ouais.
Et donc, on rentre à la maison avec ce brave homme, et on va vite comprendre que, effectivement, ça n'a pas été un accident, puisque Todd, bah, c'est un mec violent, qui vit, il vit tout seul avec sa fille, et il la bolosse de manière assez, assez violente. Il est évidemment addict à la drogue du coin qui s'appelle la Red Ice, hein, c'est le quecra du turfu.
Si vous avez vu Breaking Bad, hein,
c'est la blue meth, mais rouge. Exactement. Et puis, bah, j'imagine qu'il picole. Alors, je sais pas trop s'il picole, peut-être.
Ouais, et puis il mange des pizzas, il regarde la télé, et il aime le football américain, voilà, parce que, bah, évidemment, pourquoi pas.
Et finalement, donc elle va se retrouver dans dès qu'on arrive. Donc on arrive, on fait un peu le ménage puisqu'on incarne Kara, on fait un peu le ménage chez Todd. Et puis ensuite va venir une scène de violence domestique, hein, tout simplement, puisque Todd va péter un câble, comme on l'imagine, il pète des câbles tous les soirs, et va commencer à vouloir frapper sa fille. Et finalement, Kara, alors globalement le choix, on s'interpose en fait. Mmh. On peut, je crois, mourir à ce moment-là.
Tu peux la perdre dès le début du jeu, ouais. Et le jeu devient du coup très très court. Parce que bon, ça, on aura l'occasion de leur dire, mais ça fait partie des spécificités des jeux QD. Tu peux en fait perdre un perso en cours de route et jouer les autres, et l'histoire va quand même au bout. Tu peux les perdre tous les trois et game over quoi. Mais du coup, ouais, tu peux choisir ou non de t'interposer et d'essayer de protéger la fille. Et dans ce cas-là, bah, ça mène au meurtre de Todd.
Alors pas forcément. T'es pas obligé de le tuer.
Moi,
je l'ai pas tué.
Moi, il est mort, tu vois.
Donc, mais en fait, quoi qu'il arrive, le résultat, c'est que tu fuis.
Avec la game.
Todd, peu importe si.
Et tu reverras pas Todd qui soit.
Et tu peux le recroiser. Mais si, si. D'ailleurs, tu peux le recroiser même à toute fin à la scène du bus, je crois, quand elle s'enfuit par le bus, Kara, tu vas prendre un bus pour le Canada. Bah, tu peux recroiser Todd. Il fait d'ailleurs même amende honorable. Il dit, je suis désolé. Bref, tout ça pour dire qu'elle va fuir avec Alice, donc la petite fille de Todd, et en fait elles vont se retrouver à vagabonder, elles vont se retrouver donc à la rue, va falloir trouver un moyen de dormir pour mettre Alice à l'abri. Ensuite elles vont se retrouver chez un certain Zlatko, il me semble, qui apparemment a l'air très sympathique, il aide les robots, mais finalement pas du tout, c'est un espèce de savant fou, en gros, qui fait des expériences sur les robots.
Ouais, en fait, il efface la mémoire des robots et il les revend, du coup, sans leur programme, pour pouvoir faire, on imagine, soit des robots esclaves sexuels, soit des robots meurtriers, soit etc. C'est-à-dire qu'en gros, il vire le programme et il supprime. En fait, il crée des déviants, enfin, c'est pas qu'il crée des déviants, parce que c'est pas ça dans l'univers, mais en tout cas, il crée des robots qui font des comportements qui, normalement, ne sont pas possibles.
Il les détourne de leur fonction première, et puis, bien sûr, il y a un moment, on se retrouve dans la cave, tu vois qu'il a fait un peu une espèce de Toy Story, je sais pas, enfin, moi, Max aussi. Ça nous a vraiment fait penser à ça. Vous vous souvenez, Sid, le méchant dans Toy Story 1, qui fait des expériences, il mélange les jouets entre eux.
Il fait voilà. Monsieur Patate avec voilà. Les robots.
Exactement.
C'est ça, t'as les robots qui sont brûlés, découpés.
Voilà. Il fait tout.
T'as une espèce d'ours robot aussi. Enfin, c'est le musée des horreurs.
Voilà, c'est un petit peu ça. Évidemment, Kara arrive à s'enfuir avec Alice.
Elle est pas obligée, elle peut mourir. Moi, elle était morte.
Elle était morte,
j'étais deck, du coup, j'ai relancé la sauvegarde.
Donc, bon, logiquement, on arrive à s'enfuir, et notamment à l'aide de Luther, qui est en fait un mec qui protège au début Zlatko, qui est une espèce de grand noir très baraqué, et au final il va se retourner un peu comme son maître pour protéger Kara et Alice, et il va les accompagner dans la suite de leurs petites aventures. Elles vont se retrouver dans un parc d'attractions avec des jerrys, et au final tout se passe bien, et puis elle va apprendre de la part d'une femme qui s'appelle Rose qu'elle peut aller au Canada. Le Canada, en fait, c'est le meilleur endroit où il faut aller pour les androïdes, parce que là ils ne sont pas pourchassés par le gouvernement. Et finalement, ne commence pas à rigoler.
Pardon, mais c'est pourquoi pas.
Et finalement, on va s'en sortir de deux manières plus ou moins différentes. Soit on va arriver à aller au Canada. Donc il y a plein de façons d'y arriver. Soit on passe la frontière en bateau. Soit on passe par un bus en volant un ticket. Bref, il y a plein de moyens d'y arriver. Ou alors on va terminer, tout simplement dans un petit camp d'extermination, comme on les aime.
Ouais. En plus, il neige. Hein. C'est vraiment incroyable. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, parce qu'en fait, je me suis fait choper quand j'étais chez Rose. Kara s'est fait voir, Luther s'est fait voir, et du coup il a tué le flic et on était obligé de s'enfuir, mais on s'est fait rattraper par les forces de l'ordre, et du coup tu termines dans un camp de concentration, hein, où on n'y va pas à moitié, hein, on te enlève tes cheveux, on te demande d'enlever ta peau, on te demande de te mettre tout nu et de marcher gentiment vers cette magnifique chambre à gaz, ce grille-pain géant pour détruire des robots, et tu meurs. La fin, c'est vraiment ça.
Tu peux t'en sortir quand t'es dans le camp de concentration.
Parce que entre-temps, en fait, elles arrivent à rejoindre Jericho, alors tu sais pas comment.
Alors ouais, ça c'est une des façons.
C'est une des façons, parce que moi en fait elle cherche Jéricho, tout simplement quand elle s'enfuit, et donc du coup elle se retrouve là-bas, mais j'ai pas réussi à m'enfuir de Jéricho, c'est ça qui s'est passé exactement. D'accord. Et là donc elles sont envoyées dans le camp de concentration, et quand on va chez Jéricho, on apprend, twist incroyable, qu'en fait Alice était un robot depuis le début.
Tout à fait, effectivement je l'ai
ils avaient fait des robots enfants, mais on le savait pas, en tout cas bon c'est pas un énorme twist, mais on le supposait depuis le début, là on a la confirmation, et donc en fait ça fait que le perso est assez intéressant, puisque du coup il était devenu tellement déviant. Et tu vois, plein d'empathie, c'est vraiment la figure de la mère, hein,
oui, vraiment, c'est vraiment,
assez basique.
C'est vraiment le robot maternel, quoi.
Elle protège quelqu'un, ah, même que ça soit un robot ou pas un robot, elle s'en fout, elle le protège de la même manière parce qu'elle a un sens de la justice exacerbé.
Bah, elle avait même supprimé de sa mémoire en fait le fait que Alice était un robot pour renforcer le.
Oui, elle
le
l'a
côté.
Probablement oublié quand elle s'est fait défoncer le crâne au début du jeu.
Je crois que c'est ça, ouais, effectivement.
Le petit moi, c'est comme ça que je me le suis expliqué, hein, parce que j'ai évidemment essayé de m'expliquer des choses.
T'as une scène où, quand elle t'explique, en fait, tu vois une scène où Kara voit sur un magazine le modèle d'Alice en tant que robot, et tu sens que ça a été effacé de sa mémoire, quoi. Et c'est dit qu'elle l'a fait volontairement, voilà.
Donc là, déjà, vous pouvez l'entendre un petit peu, c'est que, bon, l'histoire, elle est ce qu'elle est, mais c'est vrai que ce côté, finalement, embranchement, plein de choix possibles, ça, c'est quand même une réussite dans le jeu, parce qu'il y a ce côté, en fait, extrêmement ludique qui fonctionne bien, genre, ah bah, si je fais ça, ça va répondre comme ça, et c'est vrai que le jeu est allé très très loin, hein. Ils ont écrit 2000 pages de script,
3000,
excusez-moi, mais ce qui fait mine 2, il y a quand même un une grosse densité, en fait, d'embranchement, et finalement, ce qui est sympa, c'est, bah, mine 2, nous, on a tous les trois fait le jeu quasiment au même moment, on l'a fait à la suite, on s'est passé
la galette.
Exactement. Et c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment sympa, en fait, de dire, ah bah toi t'as fait ci, moi j'ai fait ça et tout. Et c'est vrai qu'il y a plein de parallèles qui sont tissés dans tous les sens. Et ça, quand même, mine de, ça fonctionne assez bien.
Et il y a un truc aussi intéressant, c'est que l'histoire de Marcus peut avoir un impact sur celle de Kara. Par exemple, quand elle est au Canada, à la frontière canadienne, donc qu'elle a pris le bus cette fois. Tu peux être, en fait ils ont des machines pour scanner, en fait, pour faire la différence entre les androïdes et les humains, et en gros s'ils voient que t'es un androïde ils peuvent te tuer, et tu peux décider donc de passer sous ce scanner et de juste en fait de demander en fait au mec de la frontière de ne pas te tuer, et en fait à ce moment là il regarde la télévision et tu as la révolution de Marcus qui est menée pendant ce temps. Si elle est pacifiste, il te laisse passer. Si elle est révolutionnaire, il te dénonce et tu te fais abattre à la frontière. Et sinon, dans le camp d'extermination, si Marcus mène une révolution armée, il te sauve du camp. Et en fait, les forces de Marcus arrivent dans le camp.
Ah, tu vois,
au dernier moment, ils sauvent Kara. En fait.
Donc, et de toute façon, c'est ça, en fait. Il y a des liens, en fait. Les trois histoires se font écho régulièrement. Et là où, en fait, le jeu est allé plus loin que tous les précédents jeux de Quantic Dream, c'est qu'à la fin de chaque séquence, hein, chaque séquence, ça va durer entre 20 et 40 minutes de jeu à peu près, on va avoir un écran récapitulatif qui te montre tous les embranchements, toutes les petites actions, les actions essentielles, les actions optionnelles, les actions les plus importantes qui te débloquent l'accès à des nouveaux embranchements. Donc tu vois cette espèce d'énorme arborescence, et tout ça c'est pensé pour t'amener à refaire le jeu, en fait, hein, puisque du coup l'idée c'est de te dire, ben tu as fait ça, refais ton histoire, qu'est-ce qui va se passer, de pouvoir en discuter avec les autres gens. Bref, ça c'est une mécanique de gameplay qu'on connaît bien, enfin en tout cas c'est un système de jeu qu'on connaît bien, et pour le coup le fait de l'avoir intégré à Détroit, ça marche, je trouve, mieux que dans les précédents où on savait pas en fait quand est-ce que le jeu prenait des embranchements ou nous, parce que la façon dont le gameplay s'organise dans un jeu Quantic Dream, c'est que comme c'est que des QTE, il n'y a pas de différence entre des QTE importants et des QTE pas importants, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est des séquences où tu es en danger de mort, mais comme le script ne prévoit pas que tu vas mourir, tu ne peux pas mourir, et donc l'histoire va continuer, et des fois t'es dans des situations dans lesquelles tu te dis, bah c'est bon, je vais me faire sauver, il y a un Deus Ex Machina, etc. En fait non, tu meurs pour de vrai, et là c'est la fin. Alors que là du coup, comme on voit les embranchements, et ben rien ne nous empêche de revenir refaire la séquence plus tard. Ça peut d'ailleurs soit avoir un impact sur ta histoire principale, soit ne pas en avoir. Ça c'est un des trucs que j'ai trouvé les plus malins de la part du studio, c'est de te proposer de refaire une séquence sans que ça ait de conséquences sur ton fil principal. C'est-à-dire que tu peux créer des timelines parallèles juste pour te dire, et qu'est-ce qui se passerait
Une fois que tu as fini le jeu, le principe c'est vraiment d'aller, enfin il t'invite vraiment à aller explorer toutes ces timelines et te dire, voilà, tout ce que tu aurais pu faire, tout ce que tu aurais pu voir. Moi par exemple, bah, le passage en camp d'extermination là, je ne l'ai pas vu, moi c'est vraiment dans mon jeu, je ne l'ai pas du tout vu parce qu'on est arrivé à aller au Canada, et il y a des passages comme ça que j'ai un peu, des embranchements finalement que j'ai loupés, et à la fin, comme ça débloque sur des situations assez différentes, bah tu peux, il y a vraiment des passages que certains verront et d'autres pas, quoi.
Et ouais, comme tu disais, c'était un peu la signature de contenu Quantic Dream, et du coup c'est la première fois que je l'ai vu, le fait de pouvoir mourir, mais que ça ait toujours un sens en fait dans la diégèse, que vraiment mourir fait partie du jeu. Bah, par exemple, Connor, il était donc devenu déviant, il est des Marcus, et à bord du Jericho, à un moment, t'as une scène de QTE où il se bat contre un soldat. Moi, ça fait pas 6 mois que j'ai une PS4, du coup je suis pas encore très chaud sur les QTE. Connor s'est fait abattre en fait sur le Jericho, et après il est recréé plus tard, mais il était plus du tout déviant, du coup c'était un nouveau modèle en fait de Connor. Et en fait, j'ai dû continuer avec ça, en fait, avec ce jeu. Moi, parce que dans un jeu habituel, tu prends par exemple un Telltale, qui lui, pour le coup, te mettait quand même aussi déjà des statistiques de joueurs, mais c'était beaucoup plus binaire. C'était à ce moment-là, 40% des joueurs ont fait ça, 60% ont fait l'autre. Mais c'était game over. Si tu ratais, bah, quand tu meurs, tu meurs. Alors que là, bah, ça a un sens dans l'histoire.
Ouais, c'était la particularité. C'est-à-dire que depuis le début, ils ont essayé, depuis Viren, en fait, ils ont essayé de faire en sorte qu'on puisse perdre des personnages, mais que l'histoire reste alors cohérente. Mais en tout cas, continue d'exister sans ce personnage-là. Et ça, c'était plutôt malin. Alors, ça demande un défi à la fois technique en termes d'écriture, qui est assez complexe, parce qu'en termes d'organisation, c'est quelque chose de très complexe. Ça explique pourquoi les jeux prennent aussi longtemps à sortir. Et ça explique également leur singularité, puisque même si aujourd'hui, des jeux avec des embranchements et des jeux narratifs, il y en a à l'appel, Quantic Dream, il reste un peu à part dans la mesure où ils arrivent à faire ce côté embranchement et à le gérer de manière assez fine parfois, puisque du coup, il y a évidemment plein de séquences où on va jouer. Moi par exemple, j'avais réussi à faire dormir Kara et Alice dans un motel, et du coup dès le lendemain en fait Hank et Connor ils arrivent, ils doivent enquêter et tu dois t'enfuir. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que tu vas jouer dans un premier temps Kara et Alice, et donc là ton objectif en tant que joueur c'est de faire en sorte de s'enfuir, et après tu vas jouer Connor, et là en fait ton objectif en tant que joueur c'est de les rattraper. Donc là régulièrement le jeu réussit à te créer des conflits en toi en tant que joueur, en te disant ton objectif c'est ça, mais tu vas avoir un objectif contraire dans quelques secondes, qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup forcément on va être biaisé, puisque on va vouloir aider Kara, on va vouloir aider Connor, on va vouloir prendre l'un ou l'autre, le mettre un peu plus en avant, et régulièrement à chaque fois que le jeu en fait nous mettait dans ces situations là moi c'était les moments où je me sentais le plus engagé dans l'histoire.
Oui, c'est là pour le coup, t'as des, enfin entre guillemets, des vrais dilemmes en fait, où et c'est plus des dilemmes basés sur, par exemple, être gentil ou être méchant, enfin faire des révolutions pacifistes ou armées. Là, c'est vraiment, comme tu dis, soit tu t'attaches plus à un perso, soit tu t'attaches plus à un autre. Et t'as la scène vers la fin où Jericho, où t'alternes entre Kara, Connor et Marcus, et entre les trois, tu vas alterner. Et puis t'as une scène où t'alternes vraiment entre Marcus et Connor qui se répondent. Enfin, il y a une arme qui est braquée sur l'autre, et un coup tu vas faire parler Connor, un coup tu vas faire parler Marcus. Et ça, c'est vrai que ça marche très bien. Et ça, c'est des scènes, enfin en tout cas pour, comme tu disais, la scène où Kara se fait poursuivre par la police, que t'aurais pu complètement rater, parce que quand même, dès le début, le premier chapitre de Kara, tu peux mourir. Tu peux presque ne pas avoir un tiers de l'aventure, et ça, c'est quand même assez
Oui, c'est un choix, en tout cas, vraiment, même quand on réfléchit vraiment en termes de jeux vidéo, t'as envie que ton audience, elle voit un maximum de ce que t'as, de ce que t'as produit, quoi. Et faire ce choix-là, où tu dis, y a quand même la majorité des gens qui font une fois un jeu et ne reviennent pas après dessus, ça, c'est quand même la réalité. Déjà, quand ils le finissent, c'est pas mal, hein. Regardez les stats sur les trophées, vous verrez. Mais c'est vrai que c'est quand même assez audacieux de se dire, attends, on va prendre le risque de faire mourir Kara, même si, il faut quand même le noter, au début du jeu, tu peux choisir deux options. Donc t'as soit, genre, je peux perdre mes personnages, ou alors je ne peux pas les perdre.
Non, en fait, c'est une option de gameplay, parce qu'il y a un mode facile et un mode normal, oui, entre guillemets, mais ça change pas le fait que tu puisses mourir, ça change en fait la simplicité des QTE.
Ouais, je crois que c'est sur
ça. Moi, à la moitié du jeu, j'en avais marre des trucs où il fallait que je maintienne 3 ou 4 touches en même temps.
Parce
que
j'avais souvenir, effectivement, qu'il avait présenté, genre, vous ne pourrez pas perdre vos personnages, mais d'accord, ok.
Parce que j'avais perdu, mais du coup, alors j'ai peut-être fait le changement après le passage chez Zlatko. Je me souviens plus à quel moment j'ai fait le passage, parce que je suis basculé en mode facile pour la fin, parce que du coup il y a moins de touches à appuyer, c'est quasiment toujours les mêmes, et en plus d'ailleurs paradoxalement je trouve que ça marche mieux, je trouvais que c'était plus cohérent et plus sympa à jouer dans cette partie là donc moi j'ai préféré la deuxième moitié du jeu. Mais il me semblait pas que ça jouait sur cette histoire de mort. On a Max qui est déjà parti à vérifier en instant le fact-checking.
Mais du coup, là, comme je disais, c'est que moi, Connor, il est mort à un moment où je voulais vraiment pas qu'il meure. Mais c'est quand même intéressant parce que comme je disais, en fait, j'ai raté les QTE. Si je l'avais joué en mode facile, peut-être que je les aurais réussi. Mais d'un côté, il y a ce côté accepté, en fait. Tu vois, j'ai pas réussi les QTE. Il est mort et ça donnait quelque chose que je voulais pas. Mais du coup, t'as une certaine amertume, mais ça fait partie de mon expérience, en fait.
Le truc, c'est que Connor, il meurt, enfin, moi, il est mort 4 fois hein, pendant l'aventure. aventure et à chaque fois il est rebooté en fait, ouais. Mais il se souvient de ce qu'il a fait. Je pense que la dernière fois, du coup, ils effacent sa partie déviante.
Là, du coup, ouais.
Mais moi, il est mort 3-4 fois pendant. Ouais. Et en fait, il le reboot à chaque fois et il se souvient. Enfin, sa mort, en fait, la première fois, j'étais vraiment dégoûté. J'étais, oh mince, j'ai perdu Connor, quoi. Et en fait, non, il revient tranquille.
Ouais, mais parce que c'est un personnage dont on a besoin, en fait, dans l'histoire. C'est ça qui est assez triste, c'est que du coup, ça te fait un discours sur Kara.
Là, du coup, on peut se poser la question. C'est-à-dire que Kara, comme elle peut mourir dès le début, en fait, dans sa construction, elle est très, très accessoire
aux deux autres. Aux deux autres.
C'est-à-dire qu'il va pouvoir les croiser. Il y a des choses qui s'entremêlent. D'ailleurs, Maxime l'a très bien montré, l'a très bien expliqué avec le côté là au bus. Mais par contre, c'est vrai que Connor et Marcus, eux, ils vont aller quasiment au moins jusqu'au bout. Je crois pas que Marcus, tu peux mourir très tôt.
Non.
Et Connor, tu peux mourir, mais par contre, tu reviens en fait.
Ouais, Marcus, de toute façon, c'est le personnage principal de l'histoire. Ça, c'est indispensable. Moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que, ok, c'est audacieux, mais ils ont fait tout. Ils ont tout mis en place pour que du coup tu aies envie de refaire le jeu. Parce que le fait que tu aies cet écran, c'est une chose. Le fait que tu aies, tu vois, il y a plusieurs couches. Tu as l'écran de fin avec les embranchements. Ensuite, tu as le fait que tu aies une expérience différente. Tu vas en parler autour de toi. Ça, c'est quelque chose qui est pris en compte par les développeurs et par les concepteurs. C'est quelque chose qu'ils savent qui va fonctionner. Vu que là, je viens de finir mon bouquin sur The Witcher 2, c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque de The Witcher 2. Parce que t'as pareil, t'as deux jeux complètement parallèles dans The Witcher 2, deux voix totalement différentes. T'es pas obligé de voir la même chose selon tes choix. Et du coup, ça joue beaucoup. Le bouche à oreille, c'est énorme parce que ça te permet de relancer. Et il y a également le système de points qui là est pour le coup un système de jeu très basique sur lequel je reviendrai plus tard parce que moi ça m'avait fait tiquer pour un studio comme Quantic Dream où en fait quand tu fais des actions tu débloques des points comme un score et avec ce score tu vas pouvoir le dépenser pour acheter des artworks, des musiques, des modèles 3D autour desquels tu vas pouvoir tourner, etc.
T'as pas vu les bonus,
t'as tout un système de bonus que tu peux acheter avec qui se débloque au fur et à mesure. C'est assez sympa parce que tu peux revoir les scènes. Les points ils servent à ça.
D'accord, ok.
Et c'est un système très jeu vidéo. Ce qui personnellement m'a fait sourire puisque du coup c'est un studio qui normalement rejette ce genre de code là, mais là ils se sont rendu compte qu'ils étaient obligés d'embrasser ce genre de choses là pour justement mettre en avant leur façon de construire des cinématiques et enfin de construire donc des séquences narratives, ce qui est vraiment impressionnant. Et je pense que c'est là dessus qu'on va rester sur ce côté positif du jeu, c'est le fait que une action, il y a un côté effet papillon qui marche bien. Une action que tu vas faire en début de jeu peut avoir un impact plus tard. Là les embranchements sont tellement des fois fins que tu te rends pas compte que ce que tu vas faire, ça va jouer sur quelque chose plus tard. Moi, j'avais trouvé ça plutôt cool.
Et un autre bon point qui peut être amené, c'est aussi le rythme, en fait. Le fait de passer vraiment d'un perso à l'autre.
Le découpage, fait, de tout le jeu, qui est en fait qui alterne vraiment constamment entre les trois personnages. C'est-à-dire que les séquences durent pas plus de, tu le disais, 30-40 minutes, ou parfois c'est même très court. Il y a des trucs, ça dure 10-15 minutes, et on alterne constamment comme ça.
Alors, au début du jeu, moi, je trouvais ça quand même un peu artificiel. Et petit à petit, quand l'action, du coup, se resserre sur les trois chemins parallèles et que tu te rends compte que les actions des uns ont vraiment un impact sur les autres, là effectivement ça fonctionne mieux quoi. Comme dit, pour moi la deuxième moitié du jeu elle a un rythme qui est quand même un peu plus soutenu et qui fonctionne mieux et qui va jusqu'au dénouement, enfin au dénouement avec un S et pas mal de S d'ailleurs, parce qu'il y a plein de fins différentes.
Moi je me souviens d'une ellipse que j'avais bien aimé et qui est pourtant toute bête, c'est vraiment, alors je sais même plus la scène qu'il y avait avant, tu vois, mais à un moment, boum, t'incarnes Connor, il est dans une voiture et en fait il devait faire, je pense, un petit tour dans son Mind Palace et il ouvre les yeux dans la voiture et t'as Hank qui est dehors en fait, genre assis sur un banc, et en fait t'as vraiment le moment, bon, je sais pas, en fait, comment je suis arrivé là, ce qui va se passer, ce dont on va parler, et t'as ce côté un peu de flottement, tu découvres, en fait, comment t'en es arrivé là, en fait, et ça, je trouvais que ça marchait plutôt bien, ça.
Non, et puis même, en fait, comme les personnages vivent des choses assez différentes, finalement, chaque séquence est très, très, très différente, avec des ambiances différentes, de la photographie différente, enfin, bref, il y a vraiment des... Enfin, t'as le strip club, évidemment, avec Connor,
c'est
mais...
C'est obligatoire, ça.
Disons que toutes les séquences sont très différentes, et finalement, ça fait que, voilà, toutes les 30-40 minutes, tu changes d'ambiance et puis tu changes même un petit peu de style de jeu parce que Connor lui ça va être des enquêtes, donc à ce côté en fait il va arriver dans des scènes de crime. Ça m'a beaucoup fait penser à L.A. Noire en fait, où c'était hop, tu vas prendre chaque indice, tu vas réunir un petit peu tout et puis ensuite tu vas pouvoir faire tes petites conclusions sur ce qui s'est passé. Il y a Marcus qui a tout un passage en fait où lui il fait un peu des espèces de parcours un peu à l'Assassin's Creed.
Ouais, tu peux anticiper ces situations et chacun ils ont leur petit gimmick.
Exactement, voilà, c'est ce qu'on disait, ils ont chacun leur petit gimmick. Et puis Kara finalement c'est arriver à se sortir à chaque fois de la mauvaise position dans laquelle elle est, en essayant de voir toutes les options que tu as autour de toi, genre ah oui je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci, et puis ensuite tu fais ton choix, et puis ça va te mener un peu à la suite.
Cache, tu te faufiles,
voilà, c'est ça.
Et donc pour en revenir juste pour la difficulté, donc a priori si j'ai bien compris, tu peux toujours mourir, c'est juste que les QTE donc sont beaucoup plus faciles,
ouais, c'est ça.
Et t'as des petites subtilités du style, au tout début t'as la scène avec Connor de la prise d'otage où le déviant a une petite fille, apparemment facile elle peut pas mourir la petite fille, c'est pas une option, donc t'as des petites subtilités un petit peu comme ça.
Ok. Ouais, parce que tu as des jauges souvent qui apparaissent sur le degré de nervosité des personnages, des choses comme ça. Enfin, de toute façon, il y a plein d'éléments de gameplay qui apparaissent en cours de route. Et je pense qu'on a fait un peu le tour là sur le côté rythme. Parce que du coup, moi, je trouve que les embranchements sont très bien. Et ça fonctionne bien d'un point de vue un peu méta. C'est-à-dire que quand on prend du recul, moi personnellement, quand j'ai pris du recul sur le jeu, je me suis dit, oui, ça c'était pas mal. Et si j'avais aimé le jeu, j'aurais probablement voulu refaire certaines situations. Parce qu'en plus de ça, un autre aspect qu'on n'a pas dit, c'est que comme les séances sont courtes, c'est vrai que c'est bien adapté à un public qui découvre le jeu vidéo, parce que t'as pas besoin d'y passer du temps. C'est un jeu qui marche à fond quand tu joues à plusieurs sur le canapé. C'est évidemment le jeu que tu peux faire avec ta compagne, ton compagnon, tes enfants, etc. Enfin, peut-être pas tes enfants, mais un peu âgés, pas les petits. Mais du coup, c'est un truc que tu peux faire à plusieurs, parce que tu dis, vas-y, va là, etc. Oui, c'est ça, donc c'est quelque chose d'assez convivial, et ça là-dessus, c'est quelque chose qui existait déjà depuis Heavy Rain, et ils ont gardé ce truc-là, et c'est une de leurs forces. Pour le reste, moi, le truc, c'est que l'écriture du jeu, ça va pas du tout. Il y a beaucoup de moments où il y a des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on avait noté en premier ? Des problèmes d'incohérence.
Ce qu'il faut bien expliquer, c'est quand on parle de l'écriture des jeux, l'écriture, surtout sur un jeu qui est aussi ambitieux comme ça sur le plan narratif et dont l'histoire a autant d'importance faite dans sa proposition, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'écriture, ça intervient à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'écriture du monde, sa cohérence, ensuite l'écriture du plot, donc l'histoire telle qu'elle est, l'écriture des personnages, et
les dialogues.
Les dialogues, bien sûr, et tous les thèmes qu'il va aborder. Et en fait, il y a des problématiques un petit peu à tous les niveaux. C'est un petit peu ça qui est ressorti un peu de nos discussions autour du jeu. Et d'abord, effectivement, toi, c'est un petit peu les incohérences peut-être dans la diégèse finalement du monde qui t'ont un petit peu sorti du truc, quoi.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, dès que tu vas commencer à regarder ce que c'est le monde de Détroit, tu vas te rendre compte, en fait, il n'y a rien qui tient. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est censé parler d'androïdes et de robots, mais tu n'as pas de postulat de départ qui est bien défini. C'est-à-dire que tu ne sais pas vraiment ce que c'est comme type de robot, puisqu'ils ont l'air d'être ultra intelligents. Avant d'être déviant, Marcus est déjà capable de faire une peinture abstraite et de faire un autoportrait de lui où il se montre avec une figure, etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. C'est absolument impossible qu'un robot tel qu'ils sont censés être faits. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est pas moi, tu vois.
C'est que tu expliques bien la mise en scène, c'est-à-dire qu'au début, le peintre lui dit vas-y, peins-moi le bureau en fait. Et effectivement, il fait une copie conforme du bureau.
C'est logique, en fait. Tu lui demandes de faire un truc pictural, il va y arriver.
Exactement. Mais après, le peintre lui dit non, réfléchis un peu plus et essaie de t'imaginer, ferme les yeux, imagine un truc. Et là, du coup, t'as une espèce de rupture. Tu dis ok, donc le robot en fait, il est capable d'abstraction, d'interprétation avant même d'être déviant, quoi.
Peut-être que c'était un signe de déviance, si je veux faire un peu l'avocat du diable.
Non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le souci, c'est que quand tu crées un monde, il y a quelque chose de très important quand tu crées une narration, c'est que tu vas mettre en place des règles et ces règles, tu vas les respecter. On t'a expliqué que quand tu mets un anneau, tu deviens invisible, mais tu commences à flipper ta race et tu as envie de te diriger vers un volcan. Voilà, le monde, il est comme ça et c'est l'histoire, elle ne change plus. Il n'y a pas de règles qui changent en cours de route. Là, au fur et à mesure, l'exemple le plus typique, c'est le fait que Marcus soit capable de rendre les autres robots déviants. Au départ, il est tout seul à être déviant et il y avait quelque chose que j'avais trouvé d'intéressant, c'est que les robots, à chaque fois qu'ils deviennent déviants, les premiers, les principaux, ils doivent détruire un espèce de mur métaphorique. Donc c'est une bonne mise en scène. Je trouvais que c'était une solution de mise en scène qui était plutôt maligne pour le coup, de dire il faut détruire leurs propres barrières, etc.
En fait, ils ont un sentiment, tu sens, qui est interdit, tu vois, mais qui est trop fort pour être contenu par le programme.
Surtout, pour s'arrêter deux minutes là-dessus, moi j'avais trouvé que c'était vraiment réussi parce qu'en fait, au début du jeu, quand tu es un peu dans les zones de tuto, tu as vraiment des espèces de barrières et c'est marqué genre non, vous devez aller au magasin. Et tu dis ok, là c'est vraiment le programme qui m'enferme. Et au moment où tu vas casser cette barrière, cette barrière c'est la même et tu la brises en fait. C'est métaphorique, c'est littéral, mais je trouvais que ça fonctionnait bien. Je me disais ah ouais, je me libère finalement des contraintes du programme. Le problème c'est que après finalement dans le jeu, tu envoies encore des barrières.
Ouais, parce que du coup, les autres barrières, il y en a tout le temps et surtout, en fait, les règles elles changent tout le temps. C'est-à-dire qu'au début, être déviant ça signifie briser ce mur, etc. Plus tard, c'est simplement avoir la main de Marcus sur ton épaule et qui te regarde et qui te dit tu es libre. Voilà, et là, ça y est, t'es libre. Plus tard, c'est juste t'es libre. Tu vois, genre, il voit un androïde à 10 mètres et boum, il lui dit t'es libre et ça y est, ça devient déviant. Et plus tard, c'est pire du tout. Il a même plus besoin de parler. Il fait juste venez, warni avec ses bras là. Et tout le monde vient et ça y est. Et tout le monde
scène,
crée des trucs.
Il y a une scène assez iconique dans le jeu, cette espèce de grande marche où, comme ça, Marcus marche au milieu de la rue et il est suivi par des droïdes. Et il va vraiment faire des signes de venir, tout doux, tout gentil, genre venez avec moi, Mr. Bean,
c'est dans la voiture qui
exactement, mais c'est exactement ça.
Autres, sauf qu'il les appelle pour devenir Android.
Il leur fait pas des fuck, je l'ai dit, il leur fait pas des doigts, parce que du coup Mr. Bean il fait ça dans la voiture.
Mais c'est vrai qu'un truc un peu qu'on pourrait voir triste, c'est que, et même attends, je peux pousser le truc, parce qu'en fait t'as une scène où Marcus, tu vois qu'il peut hacker aussi des choses en fait en posant les mains, et c'est vrai que moi je me suis dit mais est-ce que du coup il y a du libre arbitre en fait dans ces androïdes qui le suivent, au final ça se trouve il est hack, tu vois, dans la mise en en scène, en tout cas tu fais pas vraiment la différence avec la machine à café qui sabote. Et comme tu le disais, en fait il y a pas cette mise en scène où il brise un mur. Il pourrait avoir un discours en ouvrant les yeux, tu vois, des androïdes, et tu verrais les androïdes briser leur mur, tu vois, chacun. Ouais. Ça pourrait marcher. Mais en fait il les touche et il les transforme, et en fait il y a aucune volonté des androïdes qui le suivent, t'as l'impression.
Ouais, c'est ça, en fait il crée une armée de drones et de zombies qui le suivent, ouais. Donc c'est un peu étrange parce que tu dis mais attends, il est censé les libérer et créer une espèce de monde meilleur, donc ça fonctionne pas. Et c'est le problème de ces règles qui ne changent au fur et à mesure, c'est constant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un aspect, les robots, bon bah en fait ils sont censés être super forts, mais il suffit de leur mettre un coup de poing et ils se mettent à saigner. Par contre ils sont capables de se réparer eux-mêmes alors qu'ils n'ont plus de cœur, plus de batterie, plus de sang, plus rien, ils sont capables de le faire. Ils peuvent prendre n'importe quelle part, n'importe quelle pièce détachée d'un autre robot et se les réinstaller, c'est de l'USB 2, c'est génial, hop tu branches et ça fonctionne. Donc il y a tout le temps des soucis d'incohérence.
Et puis à la fin ils communiquent par la pensée, je veux dire.
Et à la fin ils communiquent par la pensée, ouais.
Il en voit carrément, ils sont sur le même réseau. En fait, il y a un problème, c'est genre quid d'internet dans ce monde? Comment ça marche? Genre est-ce qu'on pouvait pas, genre CyberLife peut pas envoyer juste un virus pour faire allez stop?
Enfin je veux dire, non, Windows à la place, 10, il fallait créer Auschwitz et les envoyer là-bas.
Avec Windows 10, ils arrivent à faire planter tous nos PC en même temps avec une mise à jour, mais CyberLife ils sont pas capables de désactiver les robots qui deviennent déviants de loin.
Au camp d'extermination, t'as aussi un moment Kara et Alice, elles communiquent par la pensée aussi.
Oui,
tu vois,
tout à fait. Ouais, elles discutent entre elles. Et elle envoie des messages à Jerry, parce qu'il y a un Jerry qui est également dans le camp de concentration et qui va l'aider en se suicidant. Tu vois, il va faire diversion pour que Kara puisse rejoindre Alice dans la file d'attente de la chambre à gaz et d'aller directement là. Parce que le jeu en fait lui-même ne respecte pas sa propre diégèse. Et ça c'est très gênant parce qu'en fait c'est un truc très important dans le jeu vidéo et un concept qu'on sait dans la fiction qui existe depuis des années 1800 et quelques. C'est ce qu'on appelle en français la suspension volontaire d'incrédulité. C'est-à-dire que dès qu'on est face à un monde de fiction, on est conscient que le monde, il se passe des choses, il y a des actions qui se passent qui ne sont pas tout à fait cohérentes, mais on accepte que les règles du monde qu'on nous impose, ou en tout cas que nous on accepte quand on se met à lire une fiction, à regarder un film, à écouter de la poésie, ou à voir une pièce de théâtre, ou de jouer à un jeu vidéo du coup, sont cohérentes, et donc dans cet espace-temps, on accepte ces règles et on accepte l'immersion. Le problème, c'est que si le jeu en permanence brise ses propres règles, l'immersion est détruite. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile à accepter, parce que c'est une des problématiques du jeu, mais c'est vraiment dommage parce que ça casse en fait le propos. C'est-à-dire que du coup, on est déjà dès le début en se disant, mais attends, il essayait de faire quoi? Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Il essayait de faire des robots, il essayait de faire des robots qui étaient humains, des robots qui n'étaient pas humains, un robot qui devient humain et qui finalement se décide de tomber en esclavage tous les autres robots. Enfin, c'est.
Moi, en plus, moi, c'est bizarre. Moi, je suis vraiment une quiche pour détecter les incohérences. Tu vois, vraiment, quand je vois les films, c'est vraiment le truc, je suis vraiment pas fort pour ça. Mais Détroit, ça m'a quand même beaucoup sauté aux yeux. Il y a un moment, il y a une espèce d'interrogatoire, en fait, où la police, elle essaie d'interroger un mec, un déviant, et puis Connor qui va arriver devant le mec pour aussi continuer l'interrogatoire. Mais en fait, moi, j'ai appris à la fin, Connor, j'ai juste pris la main du mec et je lui ai sondé sa mémoire. Mais je me dis, mais alors du coup, pourquoi on fait un interrogatoire si on peut sonder la mémoire des robots directs, tu vois? Vraiment, il y a plein de moments dans le jeu, je me dis, mais pourquoi on fait ça si on avait ça en fait dès le début?
Enfin, sauf si tu veux rajouter un truc, mais sinon, on a la transition idéale pour parler de l'autre chose.
Je peux faire ce que je pensais justement à ça, parce qu'en fait, tu as donc la suspension d'incrédulité et après, t'as encore le second degré où ça va être ta tolérance personnelle, tu vois.
Oui,
tu peux dire, bon, ok. Ça passe, c'est ça. Je m'en fous. Si ça sert le propos, je vais l'accepter. Tu prends, je sais pas, par exemple Star Wars.
Le fait qu'il y ait du bruit dans l'espace.
Voilà, dans l'espace,
vois, ça fait partie de ces trucs où on sait que c'est pas possible.
Ça explose, il y a du bruit, les vaisseaux tombent dans l'espace. Bon, ça n'a aucun sens, mais tu dis, ok,
c'est comme ça que ça se passe dans cet univers.
C'est pas grave. Et encore, tu vois, tu pourrais dire, même dans Star Wars, c'est bizarre, c'est censé être juste dans la même galaxie, tu vois. Mais enfin, dans très lointaine, mais dans les mêmes
règles. Non, mais bref. Ça fait partie des règles de narration où tu sais que c'est de la fiction, donc tu peux accepter certaines choses. Oui, il y a des sabres laser. Oui, il y a des petits machins.
Mais
qui
ça encore,
partout.
Tu vois, c'est... Enfin bon, je voudrais pas non plus épiloguer là-dessus, mais tu vois, le fait que les sabres laser existent, il y a pas de souci. Le fait qu'il y ait du bruit et d'explosion dans l'espace, pour moi, non, tu vois, c'est de la tolérance en fait personnelle.
Ouais. On a tous un seuil effectivement qui va être différent. Moi, c'est vrai que là, Détroit, il a dépassé le mien assez rapidement.
C'est ça en fait le truc, parce que Détroit, je pouvais encore supporter l'idée, tu vois, que Marcus, parce que ça sert aussi le rythme en fait, parce que s'ils devaient tous les toucher, tu pourrais pas construire un récit où toute la population
mais
le
c'est
suit.
C'est important
tu vois.
Ce que tu dis, parce que ça sert le plot en fait. C'est-à-dire que eux, ils ont envie de faire avancer l'histoire dans un sens, et du coup, ils changent leurs règles en fait. Et ça, c'est.
Ouais, mais ça veut dire aussi que leur histoire dès le départ elle est bancale.
C'est ça, non,
c'est ça,
ça
le problème.
Et c'est
ça,
comme
en fait,
mais
le souci.
T'as aussi ça dans les films de zombies par exemple. En général, le premier zombie il va mettre 2 jours à se transformer et après il met 10 secondes, tu vois, parce que ça aide un peu le plot, c'est pour accélérer un peu les choses. Donc t'as ce côté un peu tu tolères ça. Le truc c'est admettons tu tolères tout, Mais tout le reste aussi, en fait, ne marche pas, parce que c'est aussi, le jeu, c'est un ramassis de clichés, en fait, vraiment, sur toutes les situations qu'il y a, tu peux tolérer ce que tu veux, mais si tu regardes un peu bah, certains films, certaines séries, tu lis certains bouquins, t'as l'impression d'avoir déjà tout vu et revu.
De toute façon, Détroit, et bon, les jeux Quantic Dream, de manière générale, c'était déjà le cas dans Heavy Rain, qui était donc un jeu qui s'inspirait énormément de Saw et de Seven, typiquement, de thriller ou slasher là-dessus, et c'est vrai que Quantic Dream, ils aiment beaucoup les films d'horreur, et il y en a des références non-stop, mais quasiment toutes les situations sont des situations qu'on a déjà vues. On parlait de l'enquête. Pourquoi il y a une séquence d'enquête et d'interrogatoire ? Parce qu'il y a toujours une scène d'interrogatoire dans les films de flics, ouais, tout simplement. Pourquoi il y a une scène de striptease ? Parce qu'il y a toujours
en fait,
un peu
tout
de...
le côté police, déjà, c'est
vraiment, ultra cliché. Le chef de la police, c'est un mec noir, tu vois.
Bah, juste pour... tout l'arc en fait Connor et Hank, c'est ce qu'on appelle le buddy cop movie, tu vois, ouais. c'est les deux partenaires qui sont un peu différents mais qui doivent collaborer pour le bien
et
de l'affaire.
Et ça c'est un truc qui est vieux comme le monde, c'est L'Arme Fatale, c'est Bad Boys, c'est Turner et Hooch, enfin on peut en sortir des tonnes.
Rush Hour, t'as The Nice Guys récemment, Ken Connie, t'as Hot Fuzz, t'as les ripoux en France.
Mais oui, non mais de toute façon, les ripoux, en fait si ça devient justement un cliché et un archétype, c'est parce qu'on a tellement eu l'occasion de découvrir des œuvres qui proposent la même chose avec les mêmes scènes, les mêmes codes, etc., que forcément ça devient un genre. Et dans ce cas-là, c'est pas grave.
C'est ça, voilà.
C'est-à-dire que si ça reprenait, si Détroit était seulement un buddy cop movie, ça irait. On se dirait, c'est un jeu de genre. Moi, j'aurais été le premier à applaudir en disant, c'est génial. Ils ont pris un jeu, tu vois, et les Noirs, ils ont pris le film noir, ils ont pris tous les codes du film noir, ils en ont fait un jeu vidéo. Bon, ça a pas marché aussi bien qu'ils voulaient, mais en tout cas, ils étaient cohérents avec eux-mêmes. Ils se sont dit, on prend un film noir, on le reprend. Là, en fait, il y a le buddy cop movie, mais il y a également le film d'horreur, il y a également le film d'action, il y a également le film de science-fiction, il y a le film de comment ça s'appelle, de braquage à la Ocean's Eleven, etc., avec l'anticipation. Il y a tous les clichés que tu peux avoir, et après il y a tous les clichés qui sont plus thématiques, qui sont pas liés à des œuvres originales, qui sont le fait que ça va être ultra sexiste, ultra raciste, etc., etc. Donc ça c'est des choses un peu différentes, mais le fait qu'on retrouve dans toutes les situations, on va pouvoir retrouver des scènes ou des films où on a déjà vu ça et où on en est au stade où on va pouvoir anticiper les dialogues.
C'est ça, parce qu'en fait, comme tu disais, le problème, c'est pas qu'il soit du genre buddy cop. Encore moi, ça me gênerait pas qu'il y ait un arc buddy cop. Enfin, je sais pas, faudrait le voir en fait pour pouvoir le digérer. Là, c'est sûr que ça marche pas. Mais le truc, c'est qu'il ne le dépasse à aucun endroit en fait. Parce que tu as des films qui sont des buddy cop movies qui peuvent être très bien. Je parlais de The Nice Guy, c'est une comédie, tu vois, qui est sortie en 2016.
Mais oui, c'est
ça
ce que je dis, tu vois, c'est pas grave de t'enfermer dans un genre, c'est un choix.
T'as même des films, je sais pas, Memories of Murder, bah, c'est un buddy cop movie à trois. T'as le mec de Séoul et t'as les détectives qui sont de la campagne coréenne. Bah, t'as ce côté un petit peu différence entre les enquêteurs, mais derrière, le truc, c'est que t'as une réalisation, t'as un scénario, t'as des personnages. Là, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Et toutes les scènes, donc la scène du striptease, bah, elle n'a rien d'original. La scène, comme tu dis, où t'as le chef de la police noire qui s'engueule avec Hank et qui lui dit...
C'est un patchwork, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as un patchwork, en fait, de choses que tu as déjà vues, et elles sont reprises, mais vraiment littéralement. C'est ça. Y a rien.
Tu as la scène où Hank, il va poser son badge, il va poser son flingue, et il va dire, non, j'en ai marre, il se casse et il casse la porte.
Non, je crois pas qu'il pose son
badge. Ouais, il le fait. Okay. Il l'a fait,
parce que
y a la scène.
Juste le coup du chef de la police qui gueule dessus, enfin, t'as le film Last Action Hero, qui date de 93, il en fait déjà une parodie. En fait, il se moque de ça. T'as
parce que c'était déjà cliché à
c'est
l'époque.
Ça. En 93, là, on parle d'un jeu de 2018. En fait, t'as un chef de la police qui gueule. En fait, il gueule à tel point que tu comprends même plus ce qu'il dit et il a un peu de fumée qui sort des oreilles. Il se moque de ce cliché. Après, c'est un film méta parce que ça se passe justement dans un film d'action. Mais il se moque déjà. Et le truc, c'est que il aurait pu faire une scène et apporter quelque chose. Mais non, il fait juste un chef de la police qui engueule le flic. Et à la fin, il lui dit, ouais, ton partenaire, ça va être le droïde. Il fait, quoi, mais non, je veux pas m'allier avec lui. Et dans Last Action Hero, le partenaire avec un enfant de 10 ans.
Enfin, exactement. Et parce qu'il veut pas. Et pourquoi? Bah, parce que de la même manière, dans L'Arme Fatale, tu vois, Danny Glover, il se retrouve à bosser avec un type aux cheveux longs, qui est à moitié suicidaire, qui a perdu sa femme, qui est devenu alcoolique, mais qui était brillant, Mel Gibson. Voilà. Et Hank, c'est juste ça. En fait, chacun des personnages secondaires, c'est vraiment criant pour les personnages mais même pour les personnages principaux, sont en fait des archétypes qui n'essayent même pas de faire semblant d'être autre chose. Et moi, ça m'a vraiment gêné, alors peut-être parce que j'ai trop vu de films, c'est possible que ça soit à cause de ça, j'ai peut-être trop consommé de trucs, mais c'est juste tellement criant, c'est que quand t'arrives dans une scène et tu sais ce qui va se passer à l'avance, c'est dommage parce que tu perds le plaisir de la découverte. Tu arrives dans la scène de striptease et tu sais très bien ce qui va se passer. Tu vas arriver dans une scène d'enquête, tu sais très bien ce qui va se passer. Et pourquoi ? Parce que comme ils utilisent en permanence les codes des films d'horreur, tu sais d'autant en plus ce qui va se passer, et ça ne fonctionne pas non plus.
Même s'ils ont essayé un peu avec le gameplay de faire quelque chose où tu dois donc hacker Connor qui pose sa main sur les robots pour s'en servir un peu comme des caméras de surveillance. En fait, il y a des robots qui sont exposés en vitrine, ce que tu peux coucher avec eux. Je pense que c'est pas que du striptease.
Dans la séquence du strip club, hein,
c'est ça. Ça, ouais, en fait, on doit... c'est un strip club, mais bon, c'est un.
Oui, on doit retrouver un espèce de mec, et en fait, Connor va hacker les différents strippers en vitrine qui en fait ont vu la personne passer, et du coup, tu les utilises comme des caméras de surveillance, effectivement.
Et du coup, c'est bon, c'est pas si nul en soi, tu vois, ça marche plutôt bien. Mais le truc, c'est que pendant tout ce temps, t'avais Hank. La première fois, je veux bien, t'as un côté un peu comique parce qu'il essaie parfois d'être drôle, où Connor lui dit: attends, vas-y, il faut que tu payes en fait pour m'ouvrir l'accès à ce
strip-là. Une petite vitre.
Voilà, c'est ça, tu dois payer en tant que client, il doit devenir client en fait du truc. Et du coup, Hank, il est un peu: attends, qu'est-ce qu'on fait? Ok, ça marche bien, sauf qu'il le fait ensuite à chaque fois, tu le fais genre 5-6 fois, et Hank, il grogne, il fait: c'est l'affaire la plus chère de ma vie, mais on n'a pas que ça à faire. Non, mais tu n'as littéralement que ça à faire, c'est ton job que t'es en train de faire, t'es en train de courser une potentielle meurtrière, et le mec, il dit que mieux à faire que payer pour un stripper.
Ouais, une fois au début, genre, il a jamais entendu parler des notes de frais, alors que le type, il passe son temps à picoler et il mange.
Mais même au-delà de ça, tu sens qu'il n'a pas compris ce qui se passe.
On est toujours dans les problèmes d'incohérence, c'est-à-dire qu'en fait, comme il se retrouve avec des clichés qui s'opposent, avec des personnages qui s'opposent en fait aux situations dans lesquelles il se retrouve, et c'est ça le souci, c'est que du coup, comme ils sont obligés comme ils ont écrit les personnages pour re-suivre ces clichés-là, quand ils les mettent face à une situation qui n'est pas de ce genre-là, c'est-à-dire la scène du striptease, la scène d'enquête du striptease n'est pas forcément un truc qu'on va retrouver dans tous les buddy movies, machin, même si c'est assez souvent le cas, le personnage, il va se retrouver à faire des trucs qui sont incohérents avec la situation dans laquelle elle est, et ça, ça fait partie des choses qui brisent l'immersion.
Je trouve qu'en fait le gros problème, c'est l'écriture en fait vraiment concrète des personnages, et comment elle se traduit, l'écriture des personnages, c'est par leur façon de c'est leur choix, et puis c'est les dialogues en fait. Et Hank, au début, il déteste les androïdes. Genre vraiment, il déteste les androïdes. Il te casse les noix. Toi, t'es le pauvre Connor, il te pousse contre un mur. Tu me fais chier les androïdes,
et
machin.
Si t'avais pas bien compris, il avait des autocollants anti-androïdes sur son ordi.
C'est vraiment,
ça fait partie de Quantic Dream. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, Quantic Dream, c'est le jeu, il te met un coup de coude.
Ouais, mais vraiment, et c'est vraiment cliché. Il te déteste les androïdes et il va passer tout le jeu à grogner androïdes, machin. Et à la fin du jeu, qu'est-ce qui te dit qu'en fait, pourquoi il n'aime pas les androïdes? Parce que son fils, en fait, il a eu un accident et il s'est fait opérer par un androïde, et l'androïde n'a pas réussi à le sauver, et il te dit quoi, hein, qui te dit: mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas la faute de l'androïde, je sais que c'est la faute de l'humain, du chirurgien qui avait trop picolé et qui pouvait pas s'occuper de mon gosse. Et là, vraiment, à la fin, j'étais devant Hank, je me suis dit: et du coup, tu m'as cassé les noix pendant tout le jeu, alors qu'en fait, t'avais bien compris que le problème, c'était pas les androïdes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu nous racontes, quoi? Et ça ne tient pas debout, en fait. Et tous les personnages, en fait, ils sont unidimensionnels. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment écrits avec juste une couche. Voilà, la dernière fois, on parlait, tous les jeux, en fait, dont on a parlé jusqu'ici, dans lesquels il y a des dialogues, de l'écriture. Vous prenez The Last of Us, vous prenez Firewatch. Les personnages, ils sont pluridimensionnels. Par exemple, Henry, dans Firewatch, il a son côté, il est très sympathique et tout, mais en même temps, il sait pas trop prendre de décision, il est un peu perdu. Bref, c'est des personnages qui ont différentes facettes, en fait, comme des vrais personnages. Et là, dans Détroit, c'est non. Pas les personnages secondaires. Prenez North et Josh, là, les deux personnages, en fait, les deux buddies de Marcus. T'as North, donc, qui est une femme, elle veut en mode guerrière, on tue tout. Et t'as Josh, qui est en mode non, il faut être gentil, il faut être pacifiste. Et c'est vraiment deux personnages, en fait, ils servent juste, vous savez, c'est les petits anges, l'ange et le démon sur le petit épaule de Marcus qui lui dit: eh, faut faire ci, non, on doit faire ça. Il y a vraiment un moment, je me souviens dans le jeu où on arrive, ils sont en train de discuter tous les deux, ils sont en train de se disputer parce qu'ils sont pas d'accord sur l'approche. Et en fait, ils sont en train de se disputer, toi, tu rentres dans la pièce et ils se retournent tous les deux vers toi au même moment. Et toi, il va falloir que tu fasses le choix. Et c'est vraiment, c'est binaire, quoi, vraiment binaire, quoi.
Ça manque de subtilité, en fait. Une écriture de personnage, ça doit normalement, plus tu vas réussir à faire un personnage qui va être crédible, plus il va être subtil. Pourquoi? Parce que du coup, il va avoir des comportements qui sont complexes, qui peuvent s'expliquer de manière un peu plus logique que il a fait ça, donc c'est ça, tu vois. Il y a un système de causalité qui va un peu plus loin que il aime pas les androïdes, donc il veut tuer les androïdes. Il y a toujours des choses un peu plus complexes, il y a toujours des trucs un peu plus subtils. Là, c'est pas le cas, parce que alors North et Josh, à la rigueur, c'est deux androïdes, pourquoi pas, tu vois, je veux dire, dans l'absolu, pourquoi pas, on pourrait éventuellement comprendre. Des personnages comme Mike, ça va pas du tout, et les personnages comme les humains, un mec comme Todd, ça paraît débile, mais Todd, il est Il est horriblement mal écrit. C'est une caricature des personnages les plus grossiers. C'est-à-dire que tout chez lui est méchant. Mais il cherche même pas à faire autre chose. En fait, il est tellement méchant que tu te dis, mais comment il a fait pour avoir une maison? Comment sa rage, comment sa colère ne l'a pas poussé à détruire l'intégralité du monde autour de lui? Parce que il est vraiment dans une origin story de grand méchant, de super-héros. Parce que tu te dis, bah, il a perdu son job à cause des robots, ça va devenir monsieur anti-android. Tu vois, il va se mettre un caleçon sur la tête, ou j'en sais rien, et puis il va commencer à mettre des capes et à voler dans la ville. Et non, en fait, il reste chez lui et il tabasse sa fausse fille
il a acheté deux androïdes, donc sa fausse fille et sa fausse femme. Comment il les entretient, parce que ça coûte cher, hein, les robots Cyberlife, attention, moi j'ai regardé les tarots, faut y aller quand même, hein. Et comment il entretient tout ce merdier, on sait pas.
C'est vraiment le cliché un peu du loser aussi, tu vois, parce que y a vraiment ce côté, t'arrives, il va y avoir 20 boîtes de pizza partout dans l'appart que tu dois ranger, les bières et tout, et ce côté, on sent que c'est aussi un petit indice subtil, c'est que s'il mange mal, c'est que c'est forcément des mauvaises personnes, parce que Zlatko, tu sais, quand tu joues Kara, tu lui apportes une espèce de plateau, et pareil, t'as de la malbouffe, tu vois, sur le truc. Enfin, t'as vraiment, les personnages, ils transpirent de leurs émotions.
D'ailleurs, Zlatko et Todd, tu sais, le modèle, c'est le même perso, en fait, limite, c'est un espèce de mec un peu bedonnant, qui a une barbe de 3 jours et les cheveux en arrière, et voilà.
Zlatko, pour rigoler, sa maison, c'est la maison de Fight Club. Si vous voulez vérifier, c'est la maison de Fight Club. C'est exactement la même maison dans laquelle Tyler et le héros ils vivent. Et donc c'est exactement ça. Et quand tu rentres, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fout là? Je veux dire,
le mec qui t'emmène dans la VK.
Ouais, il t'emmène dans la cave. Tu vois des robots. Et tu sais, à un moment, t'as Alice qui dit, j'ai un peu peur. Et toi, tu peux lui dire du genre, non, ça va bien se passer.
Non. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça montre quand même la limite des choix, en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, je parlais du cadre que le jeu fixe. Là, à ce moment-là, tu n'as pas le choix. Tu peux pas partir. Tu peux pas te dire, ok, je vais partir, on se casse d'ici, tu vois, Alice, on se tire, tu vois, t'as pas le choix, je crois
et
pas.
Et surtout qu'en plus, non, tu peux pas, j'ai essayé, moi je me suis mis contre la porte, il se passe rien, et surtout, le jeu ne réagit pas. C'est-à-dire que toi, tu l'avais fait avec la séquence de Marcus quand il marche dans la rue. En fait, quand tu t'arrêtes de jouer, quand tu arrêtes de faire des choix, le jeu ne le prend pas en compte. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que pour un jeu qui te met en permanence face à des réactions qui sont chronométrées, quand tu arrêtes de faire quelque chose, le jeu, en fait, n'en profite pas pour te mettre une petite tape derrière la tête. Ouais. Parce que du coup, tu peux très bien t'arrêter. Moi, ce que j'ai fait dès le début, je vais expliquer la séquence. Quand tu arrives et que tu reviens, Todd, il sort de la voiture et il te dit rentre, faut que tu ailles faire la vaisselle, etc. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé de me barrer et j'ai vu le mur en disant non, tu dois y aller. Et je me suis dit ah ouais, le programme, machin. Et là, j'ai attendu sur le perron de la porte. Je suis allé me faire un café, je suis revenu, il s'est rien passé. Et donc ça, dans les jeux vidéo, c'est toujours un peu dommage quand tu peux faire ça, tu vois. Moi, dans les Uncharted, c'est toujours un truc qui m'a énervé. T'es accroché à un truc et t'as genre un moment d'urgence, mais tu peux rester accroché à l'infini. En fait, la pierre va se décrocher au moment où tu vas la lâcher, pas au moment où t'es dessus. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça brise encore une fois l'intention des développeurs de dire, on vous raconte une histoire. Non, en fait, l'histoire, c'est moi qui la raconte, mais avec vos limites à vous. Et donc, forcément, on va rentrer en conflit, parce que moi, en permanence, je vais vouloir faire des choses, mais vous y avez pas pensé.
Bon, après, c'est comme tu le dis, c'est difficile de jeter quand même la pierre sur 2-3, parce que plein de jeux le font. Mais deux choses à dire. La première, c'est ils le font une fois, et moi, j'avais bien aimé, je trouvais que c'est plutôt bien intégré. Donc, pareil avec Kara, si tu te mets entre la télé et Todd, il te dit dégage de là, et ensuite, t'as un mur qui t'empêche de passer devant la télé. En fait, t'as un nouvel ordre, en fait, qui est intégré dans ton programme. Kara ne peut pas être devant la télé quand elle est allumée. J'avais trouvé ça plutôt bien, mais effectivement, c'est beaucoup trop rare, en fait. Ils essaient de te montrer parfois par exposition. Tu vois, quand t'es Marcus, tu vois un mec qui fait du jogging avec son androïde, et tu vois, en fait, il y a du mépris, tu vois. C'est genre, ah, j'ai fait combien de temps, et puis il lui balance sa bouteille d'eau, et en fait, il te montre le mépris, mais quand tu te mets devant deux amoureux qui se bécotent sur un banc, ils ne te disent rien, en fait. Alors que t'as des jeux, je sais pas, je pense c'est plutôt du genre Immersive Sim, où eux, ils vont avoir tendance à avoir des NPC, tu vois, qui réagissent vraiment à ta présence et qui vont te regarder et qui vont te dire un truc, genre, qu'est-ce que tu veux, dégage, tu vois. Et c'est vrai que le jeu le fait pas assez, il aurait pu le faire un peu plus, quoi.
Bah c'est malgré tout, en fait, c'est aussi, et on veut peut-être en venir à la problématique du jeu, il a une ambition dévorante, en fait. C'est un jeu qui est extrêmement ambitieux, et c'est vrai que de toute façon, des scripts, il y a un moment où tu peux pas être exhaustif, finalement, dans tous les scripts que tu peux mettre dans un jeu. Tu peux pas tout prévoir non plus, quand même, malgré tout, dans
ce genre de truc. En fait, alors, c'est pas que tu peux tout prévoir, mais c'est que, comme tu l'as dit, s'ils avaient pris l'approche de l'immersive sim, ils se seraient retrouvés avec des choses, ce qu'on appelle systémiques.
Mais c'est pas du tout le cas.
Et là, c'est pas du tout le cas, parce qu'on est dans un jeu où tout est cadré. Et alors que si on avait eu un jeu qui avait été systémique, en fait, on aurait eu des règles et les personnages réagissaient par rapport à ces règles. Les jeux systémiques, c'est Zelda Breath of the Wild. Quand vous prenez votre, vous avez déjà dû expliquer ça 40 fois sur votre chaîne GameNet.
De toute façon, il y a toujours des limites à un moment.
Il y a forcément des limites, mais il y a des règles que tu peux exploiter, et avec ces règles, tu vas pouvoir créer une histoire. Alors que là, comme il y a pas vraiment de règles et que tu ne fais que suivre des séquences qui sont scriptées par des appuis de boutons qui n'ont d'ailleurs aucun lien avec ce que tu es en train de faire, mais bon, ça voilà, c'est le postulat de départ de Quantic Dream, leur gameplay il est de cette manière là, forcément tu vas forcément être limité par ce que tu as écrit Donc si t'as pas écrit, t'as beau avoir écrit 3000 pages de script, si tu veux écrire la vie entière, bah bon courage quoi.
Et de toute façon, mais comme on le disait, de toute façon, déjà, ce qui est écrit, on va pas rentrer dans le détail de tout justement ce qui ne va pas, mais pour aller vite, on parlait de toutes les scènes d'horreur, t'en as plein qui ont rien à faire là en fait. Pour les énumérer rapidement, on s'attardera peut-être sur une, mais pour les énumérer rapidement, t'as un moment, t'as Connor, tu te rends compte que le meurtrier il est encore dans la maison, puis t'as un petit jumpscare où t'as des balais qui tombent quand tu soulèves un rideau, ensuite t'arrives dans le grenier, t'as une silhouette derrière un drap, tu sais pertinemment que c'est pas lui, mais bon voilà, il y a ce côté un petit peu atmosphère qui fait peur, bon pourquoi pas, sauf que ça revient plein de fois, t'as une scène, donc t'es dans la décharge, dont on en parlait avec Marcus, moi je l'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, mais il y a du too much clairement, j'ai bien aimé parce que il a perdu un œil, il a perdu un peu Louis, il a perdu ses jambes, donc tu te traînes, la vue elle est brouillée, le son il grille un peu, ça résonne, ouais, et ça, je trouve qu'en termes d'ambiance ça marche plutôt bien, sauf que t'as 5 jumpscares où tu passes à côté d'un androïde, il va te choper la jambe, tu passes par une espèce de mur où t'as des mains qui sortent, enfin c'est très bizarre, ça n'a rien à faire là. Tu vois, quand t'arrives au Jericho avec Marcus, t'as Norse, alors j'ai rematé sur YouTube pour voir qui c'était, parce qu'une fois que je connais les persos, je me suis dit mais qui a fait ça en fait, parce que t'as quelqu'un qui court devant toi genre dans un couloir, ça dure une seconde tu vois, et t'as un coup de violon de jumpscare, j'ai vu c'est Norse, mais pourquoi ouais, elle fera ça, tu vois, ça n'a aucun sens.
Bah elle faisait son jogging.
Oui, non, mais c'est ça. Elle attendait dans le coin, puis elle s'est dit go, tu vois. Elle est partie au courant. On l'a évoqué, t'avais le musée des horreurs avec.
On peut toutes les faire. Le jeu, en fait, c'est un enchaînement, en fait. Le souci, c'est que comme Quantic Dream, avec Heavy Rain, ils avaient réussi à reprendre les codes du slasher et du thriller et du film d'horreur. Là, ils les ont remis, mais ça ne fonctionne pas, parce qu'on est dans un jeu qui est censé nous faire ressentir de l'empathie pour les personnages qu'on joue, et ils nous mettent face à des situations. La pire, on en avait parlé, c'est la scène quand ils arrivent dans le parc d'attractions, où en fait, bon, leur bagnole tombe à court d'essence avec Luther, Alice et Cara, et donc, qu'ils ont sous la main, bon bah ça tombe bien, il y a un parc d'attractions, on va aller dans le parc d'attractions. Donc ils se cachent dans le parc d'attractions qui a été manifestement abandonné depuis des années. Et là d'un coup.
Qui est déjà un setting un peu cliché.
Oui, voilà, bon, c'est déjà évidemment très cliché, mais ça, bon, c'est autre chose. Et rapidement, une fois qu'ils se sont installés, qu'ils ont réussi à faire du feu, qu'ils ont mis Alice dans un coin et qu'elle peut enfin dormir calmement, boum, tu entends des bruits, des machins, et tu vois des zombies, littéralement, hein, c'est des figures de zombies qui sont là en train de casser les vides, de péter les portes, etc. Et quand ils arrivent, ils te disent juste salut, c'est nous, c'est les Jerry. Et ben, du coup, en fait, on voulait voir comment ça. Allez, hey, viens faire du manège avec nous. Et t'es là. Mais pourquoi vous avez fait un film d'horreur pendant 2 secondes en fait ?
Non, mais en fait, le vrai problème, c'est vraiment la mise en scène. C'est-à-dire que vraiment, c'est filmé comme les zombies. On l'a regardé là, la séquence juste avant de faire l'épisode où ils vont rentrer, ils cassent les vitres et tout. Donc c'est vraiment, c'est Walking Dead quoi. Ouais. Et après, donc tu sais, tu te dis, putain, on va se faire attaquer. Et les mecs font, oh ben non, on voulait juste voir comment vous allez. C'est ça.
Ça marche pas.
Tu t'es dit, mais alors. En fait, le truc, c'est que tu te dis, ok, pourquoi pas les Jerry, pourquoi pas, ils rentrent comme ça, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que la manière d'être mis en scène, la manière dont c'est filmé, en fait, ça veut clairement aller dans un sens de slasher. Et le truc, c'est que le jeu fait constamment ça. C'est-à-dire qu'il veut aller, il utilise des trucs, mais il l'utilise pas à bon escient, il l'utilise pas pour servir ce qu'il veut raconter, en fait.
Et ce qu'on a dit, c'est que du coup, ben, c'est parce qu'il a trop de thèmes. Il essaye de raconter trop de choses, et il est beaucoup trop ambitieux pour son propre bien, parce qu'il essaye d'en faire tout simplement trop, tout le temps.
Effectivement, ça, parce que là, on l'a très brièvement mentionné quand on parlait de l'histoire, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a tout un espèce de reprise de délire sur l'esclavage, puisque bah, les androïdes, ils se comportent comme des esclaves qui veulent se libérer des chaînes de leur maître. Il y a aussi tout un délire avec l'apartheid, parce qu'au début, parfois, on passe dans des bus et les bus sont séparés, c'est-à-dire qu'il y a les humains d'un côté et les robots
pas,
de l'autre.
Pas que l'apartheid, dans les États-Unis
oui,
des années 50.
Oui, tout à fait, tu as raison. Et puis aussi, bah, l'Holocauste, évidemment, la Shoah avec les...
Les chambres à gaz à la fin, le camp d'extermination, c'est vraiment incroyable. Et donc, il reprend tous ces thèmes-là, mais sans en tirer quoi que ce soit. Parce que tu te dis, tu vois, si tu prends encore une fois un peu de recul, tu te dis, ah, c'est pas mal. Je vais essayer de comparer la montée des androïdes qui deviennent des humains à l'émancipation, tu vois, et les combats pour la justice sociale, que ça soit aux États-Unis ou que ça soit, etc. Et
donc, tu dis, pourquoi tu peux y penser, tu vois, en tout cas, il y a des parallèles, évidemment.
Ouais, les parallèles, ils sont là. Mais du coup, il en tire rien. Il ne fait que reprendre ça. Tu te dis, c'est en 2040. Et genre, ça a choqué personne qu'il y ait des androïdes à la fin des bus, alors que c'est des androïdes qui sont des assistants personnels.
C'est ça.
Ils portent tes courses, tu vois.
Enfin, ça n'a aucun sens. Hein. Donc, pour recontextualiser un peu, donc dans les États-Unis, des années 50-60, t'avais certains États où t'avais donc les blancs s'asseyaient devant le bus, les noirs s'asseyaient au fond du bus, et au milieu, c'était une zone un peu neutre. Mais en gros, si un blanc voulait s'asseoir à une place, le noir devait se lever, tu vois, dans les zones neutres. Enfin, c'était vraiment la ségrégation, tout simplement, qui était vraiment dans la loi. Et donc, il reprend ce code-là des androïdes qui ne peuvent pas s'asseoir au fond du bus. Mais pourquoi ? Ça n'a aucun sens, comme on le disait, et les androïdes, bah... Enfin, pourquoi est-ce qu'il viendra dans le bus avec toi et ensuite ils iraient au fond ?
Non, mais c'est vraiment de l'utilisation de symboles, vraiment de grands symboles historiques des luttes sociales, et on les reprend, et on les met comme ça, juste pour te les balancer, juste pour essayer de... Bah d'avoir, je sais pas, une espèce de faire un jeu qui est très, tu sais, un peu moralisateur, genre regarder comme ils sont traités, machin. Enfin, vraiment, moi, quand je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas vu le camp d'extermination dans ma run, quoi. Et je suis allé voir ça sur YouTube, j'ai fait, ah, les mecs, ils ont osé quand même faire ça, quoi.
Non, mais c'est ouais, ça va super loin, parce que du coup, t'as vraiment tous les codes de ce qu'ils ont dû vivre, les gens, à l'époque de la Shoah. C'est, ils vont les faire se mettre à poil, ils leur font enlever leur peau, puisqu'en fait, bon, c'est un espèce de shader qui se rajoute, ils leur font enlever leurs cheveux, ouais. Et c'était exactement ouais, ça que faisaient les nazis. Enfin, tu te dis, mais personne, pendant l'écriture du jeu, s'est dit, genre, attention, les gars, on va peut-être un peu...
On touche quand même à des choses.
Parler du nazisme, ou parler de la Shoah, ou tu vois, ou parler de l'Holocauste, c'est des choses que tu peux faire, et des jeux vidéo qui le font. Et évidemment que le devoir de mémoire, c'est un truc qui est important, encore plus aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que faut que ça serve ton propos. Quoi ton propos ?
C'est ça
le souci avec des trucs.
Il y aurait pu avoir un discours du type, je sais pas, l'homme n'apprend jamais, ou on répète toujours un peu les mêmes choses contre les populations discriminées. Tu vois, un discours un peu sur l'humain, tout simplement. Sauf que là, à ce stade du jeu, t'as déjà vu la marche pacifiste façon Martin Luther King. Tu as vu, bah, comme on disait, les bus et tout. Le fait que ça s'appelle Détroit. Enfin, déjà, la ville de Détroit, elle a une histoire un petit peu chargée aussi, où c'était dans les années 60, t'avais des énormes émeutes qui ont duré plusieurs jours. Enfin, ils ont fait amener l'armée et tout, parce que dans les quartiers noirs, il y avait des émeutes, il y avait beaucoup de looting, enfin, je sais plus comment tu sais ça, parce que Détroit, il y avait beaucoup de chômage, il y a des populations noires qui étaient venues pour travailler à l'usine, dans les usines automobiles, et tout ça, ça a perdu en compétitivité, etc. Donc bref, il y avait un terreau, tu vois, favorable à tout ça, mais c'est devenu beaucoup de luttes raciales à
Détroit. C'est devenu un symbole, parce que du coup, Détroit, c'était vraiment la ville, en fait, Motor City, tu le disais tout à l'heure en introduction, c'était symboliquement la ville industrielle par excellence des États-Unis, on fabriquait les voitures, donc General Motors, Ford, etc., les grosses marques américaines, et évidemment, qui faisaient travailler des gens, du coup, à moindre coût, et avec la mondialisation, ben, ça s'est mal passé.
C'est complètement effondré.
C'est quoi le délire de se dire... Donc, tu te dis, le parallèle qu'ils ont tiré, c'est, bon, bah, du coup, on va fabriquer des robots à Détroit, et bah, ça va être pareil, ils vont supprimer les postes des humains, et ils vont travailler à leur place.
Ça va devenir, en fait, les nouveaux Afro-Américains, en fait, qui se battent pour l'égalité des droits, dans un contexte économique difficile, parce qu'au début, t'as ce postulat un petit peu où t'as 30%
de 30% de chômage.
C'est ça, 30% de la population américaine qui est au chômage. Et ça, tu le revois jamais, en fait, intelligemment, dans le contexte. C'est juste, le pitch, ça va juste être, bah, comme il y a des robots, il y a du chômage, ok, pourquoi pas. Sauf que les gens, ils vont juste détester les androïdes. Ils vont pas détester l'entreprise qui fait les androïdes, ils vont pas remettre en cause, justement, le système dans lequel ils sont qui permet ce genre de choses. Non, ils sont juste, ah non, les androïdes, c'est des salauds. Mais c'est débile.
Non, mais et puis, en fait, le truc, c'est que le jeu veut brasser tellement large. En fait, je parlais d'ambition démesurée, il veut brasser tellement large, il veut tout toucher. Enfin, quelle œuvre, franchement, aujourd'hui, touche à la fois la Shoah, l'esclavage, la ségrégation,
les
racisme,
films d'horreur, le buddy movie,
t'as l'impression
le
vraiment,
sexisme,
le jeu, c'est un espèce de grand fourre-tout. Et en fait, le problème d'être un fourre-tout, bah, c'est que tu traites tout en surface, tu utilises les symboles juste en tant que symbole et pas pour servir ton propos, puisque de toute façon, le jeu, quand tu l'as fini, tu te dis, mais qu'est-ce que ça me raconte finalement ? Parce que ça part tellement dans tous les sens que tu ne sais pas, il n'y a pas vraiment... Vous voyez, par exemple, Inside, on s'est tous d'accord, on s'est dit, ok, bah, c'est le contrôle, c'est à peu près ce qu'on a tiré du jeu, tu vois. Là, Détroit, je ne saurais pas te dire qu'est-ce que ça me raconte,
Et le pire, c'est qu'en plus, comme tu dis, bah, il touche des choses qui ont vraiment existé, et il n'a aucun discours, il n'a même pas de discours, tu vois, avec Marcus, tu peux être violent, tu peux être pacifiste, et les deux marchent, en fait, il n'y a aucun discours sur la violence, sur le fait de comment combattre pour obtenir des droits dans un état comme ça. Il n'a aucun discours sur ce qu'est l'humanité. Je vais lire par exemple une citation de David Cage de 2013. Il dit « On essaie d'explorer à chaque fois de nouveaux thèmes, mais de parler de l'humain avant tout. Le spectaculaire, détruire, tuer, ne m'intéresse pas. On veut tendre un miroir aux joueurs. » Et s'il y a bien un genre, en tout cas un thème qui fait questionner l'humanité, c'est bien celui des robots, des androïdes qui peuvent ressentir des choses. À aucun moment, Détroit questionne l'humanité, questionne la différence entre des androïdes, des humains.
Et surtout qu'en plus, la mise en jeu fait que, de toute façon, tu joues des humains, en fait. C'est-à-dire que le jeu te dit, oui, c'est des androïdes, mais en fait, dans leur comportement, dès le début, bah, t'es déviant, en fait, finalement. Même Connor, tu peux essayer éventuellement de le roleplay en n'étant pas déviant, mais de toute façon, s'il n'était pas déviant, il n'aurait pas tous les micro-choix qu'il ait à faire, puisque de toute façon, il devrait faire qu'un truc, c'est-à-dire respecter son programme. Donc, peu importe ce que tu fais, en fait, de toute façon, tu mets de l'humanité dans ces personnages-là, et ils sont traités comme des humains.
C'est ça, de toute façon, il leur fait vivre des choses qui ont été vécues par des humains.
Exactement.
On disait, voilà, la Shoah, les combats pour l'égalité des droits civiques par les Afro-Américains aux États-Unis, tous ces trucs-là, c'est des choses qui ont déjà été vécues. Et le problème, c'est pas de les reprendre ou de faire des parallèles, comme on le disait, ça peut justement prêter à une œuvre, mais il n'apporte rien de plus, en fait.
Mais surtout que moi, ça témoigne certain manque d'imagination, parce que bon, je veux dire, l'humanité, en termes de saloperie, en termes d'horreur, on a quand même été assez solide. Je veux dire, je sais pas si on est les seuls êtres avancés dans toute la galaxie, mais je suis sûr que là-dessus, on est vraiment les meilleurs, tu vois. Mais tu te dis, dans une situation où c'est les robots, ok, pourquoi pas, les robots veulent mener une révolution, ils veulent être égaux aux humains. Pourquoi ça se passe exactement pareil? Il faut arriver avec des nouveaux trucs, tu vois. Et justement, ça aurait été de recentrer vraiment ça, en donnant peut-être, je sais pas, une façon que les humains auraient eu de les traiter. Et voilà, et on part là-dessus et on essaie de discourir là-dessus, quoi.
Et le souci, c'est que du coup, ben, comme toi, tu as le choix en tant que joueur, du coup, eux, d'un point de vue narratif, ne peuvent pas te créer les conditions dans lesquelles tu vas comprendre les choix que tu vas effectuer. Parce que Marcus peut devenir violent ou pas violent, mais ce n'est pas lié à son histoire. Alors que normalement, théoriquement, les réactions que tu as, surtout dans la narration, tu as souvent, tu vois, je veux dire, si on retourne dans les clichés, on aurait imaginé qu'à un moment donné, quand il essaye d'être violent ou pas violent, il a une situation où, tu sais, il se revoit en train de sauter dans un champ avec le petit vieux peintre, etc., tu sais, avec la lumière flashback et la musique de la petite maison dans la prairie, et qui lui dit « Sois gentil, mon fils », parce qu'évidemment, c'est la figure du père, patati, patata. Bref, mais le fait est que là, non. En fait, il peut choisir d'être méchant ou gentil, mais sans raison, parce que toi, le joueur, en fait, tu le contrôles. Donc finalement, c'est toi, le joueur, qui est déviant, mais t'es là, ben, super, c'est ça votre propos. Enfin, je veux dire, oui, je peux faire des choix, quoi, en tant que joueur, merci beaucoup.
Une des qualités du jeu qu'on citait au début, c'était vraiment, bah, justement, cette multitude de choix et de fins, mais du coup, c'est ce qui fait que le jeu est une coquille vide, en fait, puisque justement, comme t'as le choix de tout faire, et ben, tu ne peux que être personne, puisque ne serait-ce que le choix entre être pacifiste ou révolutionnaire, bah, ça traduit quand même, tu vois, des émotions qui sont censées être fortes et conflictuelles en une personne, et là, Marcus, comme il est obligé de faire les deux, c'est-à-dire qu'il doit être personne, en fait, pour pouvoir faire les deux.
Mais surtout qu'en fait, dans la manière d'écriture, en fait, de la manière de traiter de toute façon les choix que tu vas faire, ils peuvent pas te porter de jugement, en fait, concrètement. C'est-à-dire que le jeu n'a pas un discours concret en disant, bon, bah voilà, a priori, la violence, c'est pas un bon délire, ou pas forcément, tu vois. Ça pourrait être intéressant de dire, bon, bah, est-ce que c'est la voie de la violence qu'il faut choisir pour mener une vraie révolution, tu vois.
Typiquement,
mais ça, il ne le fait pas.
Kara, au début, elle peut choisir de braquer un type ou de voler des trucs, tu vois, pour qu'elle puisse nourrir Alice, alors qu'en fait, elle se nourrit pas vu que c'est un robot, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais
la seule conséquence, c'est juste Alice, la petite flèche baisse vers le rouge parce que oh bah quand même t'aurais peut-être pas dû kebra,
t'aurais pas dû voler un truc, c'est pas bien, tu vois. Mais c'est tout, il y a aucune autre conséquence, en fait. Donc du coup, bah, les gestes qu'ils ont n'ont pas de conséquence, et bah forcément à la fin tu te retrouves, qu'est-ce que t'en gardes du jeu?
Et c'est un format, en fait, qui est difficile, tu vois, parce que comme on dit, c'est vraiment le format, je pense, ils ont réfléchi, ils se sont dit, bon, on va faire plein d'événements, plein de fins, et je pense que c'est difficile d'écrire des personnages principaux quand tu as autant de choix conflictuels face à eux. Mais, et du coup, une des solutions qu'on avait déjà pu voir un peu dans Firewatch, c'est au final de t'enfermer dans certaines cases prédéfinies où tu ne peux faire que des mauvais choix ou que des bons choix, parce que ça traduit une personnalité. Mais là où le jeu, je trouve, a aucune excuse, on en a déjà parlé, de toute façon, c'est l'écriture des personnages secondaires, parce que eux, bah, ils sont juste là pour servir les événements. Et on voit, en fait, c'est un peu l'inverse de The Last of Us, où nous on voyait que il partait d'un pitch où il voulait raconter l'évolution de deux personnages, et c'est autour de ça qu'ils ont construit un univers où il y a des zombies. Au début, ils étaient même pas sûrs de vouloir faire une infection, mais ils se sont dit, nous on veut raconter telle histoire, qu'est-ce qui sert le mieux cette histoire, bah c'est ça. Et là, c'est un peu l'inverse, ils se sont dit, bah nous on va faire des événements et on va écrire des gens qui vont servir les événements.
Moi je suis pas sûr que ça soit vraiment leur intention, parce qu'au contraire, tu vois, leur manière de dire, oui, on veut faire des personnages, des machins, tu vois, genre, ils veulent écrire des trucs comme ça, juste qu'ils
c'est vrai,
méchants, mais est-ce qu'ils savent le faire, quoi, vraiment, parce que vraisemblablement.
Il s'appuie sur des codes de narration qui sont éculés, quoi. Tu vois, toutes les scènes que tu dis, c'est ce qu'on appelle un MacGuffin en cinéma, c'est des situations, tu sais, c'est les situations qui sont créées uniquement pour servir un propos et servir de plot, enfin pour servir le plot. Donc en gros, ils doivent aller quelque part, et ben il va se passer un truc pour expliquer pourquoi ils vont aller quelque part. Et donc du coup, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de lien global, tu vois. Donc ils ont peut-être créé les personnages d'un côté, enfin en tout cas, moi ce que j'en retiens, c'est que ça montre quand même qu'il y a eu des soucis durant l'écriture du jeu, parce que clairement, il y a des incohérences qui sont tellement grosses, il y a des soucis au niveau des thématiques, il y a des soucis au niveau des personnages, des clichés, etc. Tu te dis, il y en a tellement, est-ce que c'est pas possible qu'à un moment donné, ils s'en soient rendus compte eux-mêmes durant l'écriture?
Moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est possible, en fait, tout simplement? Est-ce que c'est possible d'écrire une fiction avec autant d'embranchements, des trucs comme ça,
et
d'y arriver, en fait,
peut-être
et que ça marche?
Peut-être pas.
Moi, au jour d'aujourd'hui, de toutes les fictions que j'ai pu voir qui fonctionnent sur ce genre de ressort, j'ai jamais été convaincu. Ça, c'est mon ressenti perso, tu vois. J'ai vu, par exemple, le Bandersnatch qui est sorti sur Black Mirror, là, sur Netflix. J'ai trouvé ça aussi un peu finalement un peu creux. Et tous les trucs que j'ai vus toujours comme ça, ça m'a toujours semblé, j'ai pas été convaincu, au jour d'aujourd'hui j'ai pas été convaincu, et surtout plus il y a d'ambition, plus t'as envie d'en faire des tonnes, c'est-à-dire que si tu prends les Telltale qui finalement restent assez binaires, bah ok tu peux un peu te ficeler, mais là le problème c'est qu'il y en a tellement, tu te dis, moi je me mets à la place du mec, de toute l'équipe qui a dû écrire ça, je me suis dit mais en fait bah ouais c'est un achievement, vous avez quand même réussi à faire quelque chose, à essayer de faire un truc qui tient à peu près. Mais à quel prix, en fait? À quel prix, qu'est-ce que ça vous a coûté, finalement, dans la subtilité de l'écriture sur les personnages, du plot et compagnie? À quel prix, quoi?
Quand tu veux tout dire, tu dis rien, au final. C'est un peu ça. Hein.
Screw. Ouais, ouais.
Non, mais le fait est que c'est un peu le souci. C'est, voilà, ils ont un trophée, et surtout, bah, à quel prix? Bah, le prix de la qualité du jeu. Parce que au final, des jeux narratifs, en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est que aujourd'hui, des jeux avec des ambitions telles que avait Heavy Rain à l'époque, c'est vrai que avec une ambition un peu, on va dire, mainstream pour un grand public, ils étaient presque les seuls à l'époque, quand c'est sorti. Aujourd'hui, on a eu des tonnes et des tonnes de choses. Et on s'en est au point où tu te demandes, mais est-ce que justement, à être omnubilé par cette façon de faire avec les embranchements, est-ce qu'ils n'ont pas raté une évolution du jeu vidéo qui aurait pu leur donner des codes et qui aurait pu, eux, mélanger leur formule avec ce qu'on a vu dans tout un tas d'autres jeux. Moi, j'ai fait The Red Strings Club peu de temps après avoir fait Quantic Dream, Détroit, et du coup, c'est un jeu qui reprend finalement la même chose, mais il y a beaucoup moins d'embranchements. Les embranchements, ils servent toujours le même propos. Quoi qu'il arrive, ça va pas changer la face du monde. Ça va, l'histoire, elle va quand même avancer à peu près de la même manière parce qu'ils savent où elle va. Eux, comme l'histoire, elle va dans toutes les directions, et ben effectivement, ça aurait demandé un effort. Et ce que j'ai peur, c'est que plus ils auraient voulu, tu vois, écrire de manière cohérente, etc., plus ils auraient ajouté du travail, plus ils se seraient rendu compte de petits détails qui allaient pas, et plus ça aurait donné. Tu vois, c'était un truc, ça aurait été une espèce de machin cancéreux, ça aurait jamais pu arriver, quoi.
Tu te dis, bah, en fait, tous ces gens-là qui ont essayé de faire tenir ce truc debout, en fait, la question, c'est se dire, est-ce qu'il fallait vraiment que tout ça tienne ensemble debout, quoi? Et moi, je sais pas. Et je pense que t'as vraiment raison de le préciser, parce qu'à l'époque d'Heavy Rain, ouais, ça, c'était vraiment une proposition qui était un peu unique. Aujourd'hui, bah, ça fait déjà 3 jeux qui sont sortis, qui sont un peu sur ce même fil-là. Mais surtout, bah, côté indé, on a vraiment eu des gros essais, en fait, sur la narration, et des trucs qui ont montré que, enfin, j'ai pas envie de balancer sur David Cage, mais lui nous dit tout le temps, oui, voilà, le jeu vidéo, il s'est pas provoqué d'émotions et compagnie. Moi, on a parlé de 5 jeux, là, jusqu'ici, dans fin du game, tous ces jeux-là, ils m'ont provoqué des émotions grâce à leur narration. Et là, aujourd'hui, bah, peut-être pas tant que ça.
Et un truc paradoxal, je n'avais pas parlé, mais je l'avais noté, c'est que, finalement, son jeu, enfin, le jeu, du coup, c'est malheureux, mais parce que, du coup, il se présente tellement comme un auteur que, forcément, on va retenir que son nom, mais bon, le jeu de Quantic Dream Détroit, c'est un jeu qui, en fait, est paradoxal, puisque le postulat, c'est, on va essayer de détruire les codes du jeu vidéo pour vous montrer que c'est possible de faire quelque chose, mais les seuls moments où ça fonctionne, c'est quand tu es en train de marteler ta touche et quand tu es dans une situation d'urgence où il faut avoir du réflexe, de l'agilité et donc des choses, des talents qu'on te demande quand tu joues aux jeux vidéo. Donc en fait, de base, son postulat, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il s'appuie sur une logique qui est finalement assez bancale. Tu peux pas demander à un jeu de dire on va réussir à sortir des codes du jeu vidéo, on va en faire un jeu vidéo, mais
ça,
on est obligé du coup d'utiliser les codes du jeu vidéo. Parce qu'il y a les embranchements.
Est-ce que tu veux faire un jeu vidéo?
Est-ce que c'était ça que tu voulais faire? Parce que finalement, il y aurait peut-être d'autres moyens de le proposer. Je pense qu'un truc comme Détroit proposé à la manière de Bandersnatch, j'aurais trouvé ça 1000 fois plus intéressant.
Mais de toute façon, sans opposer forcément le gameplay à la narration, on a vu que de toute façon, la qualité de l'écriture de base, elle n'est pas là pour supporter les ambitions qu'ils peuvent avoir. C'est un constat qui est triste. Hein,
moi, c'est ça le truc, c'est que je me dis, bah, justement, en fait, est-ce que tous les efforts n'ont pas été mis sur ces côtés embranchements et que du coup, bah, il n'y a pas la possibilité d'écrire correctement des personnages? Parce que, de toute façon, si tu veux écrire un personnage, normalement, un personnage, si tu le construis vraiment en termes de fiction, il ne peut pas faire des choix qui dépendent de quelqu'un d'autre. Il fait des choix qui dépendent de lui. Donc, de toute façon, ce projet de fiction, moi, je trouve que c'est encore une énigme, en fait, dans l'écriture. C'est encore une énigme, vraiment. Comment écrire de la fiction interactive? On se cherche encore, et je pense qu'aujourd'hui, Détroit, bah, il a peut-être pas encore réussi, quoi.
De toute façon, on est plutôt en faveur des jeux justes ici, et moi, quand tu me dis que le jeu, il a 3000 pages de script, mais je te dis, mais t'en enlèves 2000 et tu me fais 1000 bonnes pages, quoi. Enfin, je sais
peut-être,
pas.
Peut-être aussi, c'était pas aussi polarisé au niveau des possibilités, tu vois, que c'était peut-être plus restreint, que quoi qu'il arrive, il y avait une révolution des robots, mais qu'elle était plus ou moins agressive, elle était pas soit l'un, soit l'autre. Si tout n'était pas aussi binaire et quelque part manichéen, je pense que ça aurait été finalement beaucoup plus juste, et on aurait senti ce propos sortir, puisque du coup, on aurait eu quelque chose de cohérent tout du long, et nous, on aurait pu se dire « Ah ouais, d'accord, ok, il voulait parler de ça. » On aurait été d'accord ou pas, ça, c'est une autre question. Mais surtout, on aurait été intéressé par le truc, parce que là, quand t'en ressors, t'es là, j'ai pas vraiment compris de quoi il voulait parler, quoi.
Mais il n'y a aucun développement, comme il disait, il y a plein de thèmes qui auraient pu
mais
être abordés.
Mais on n'arrive pas à comprendre David Cage, tout simplement. On n'est encore pas arrivé, voilà, c'est tout simple. On n'est pas, il se plaint souvent régulièrement c'est que vrai. La presse ne le comprend pas, que les critiques ne le comprennent pas. Bah, effectivement, moi, j'ai encore pas compris.
On aime trop les boum boum et les vroom vroom.
Bah oui, c'est ça, vraiment. C'est ça le problème.
Non, mais c'est particulier parce qu'en plus, ces prises de position, c'est ça qui est terrible, c'est que quelque part, moi, je le trouve très pertinent dans son discours. C'est-à-dire que quand il prend la parole en disant la parole, je sais pas pourquoi dire un vieil accent qui ressort, c'est pas des fois. Et il y a quelques années, je l'avais vu.
Ouais,
ça va être rigolo. Je l'avais vu à l'époque, donc voilà, encore instant, Exerve le grand frère. Quand je bossais chez Micromania, j'avais pu assister à une conférence de David Cage qui nous présentait Evirine à tous les gens de Micromania et il nous présentait une séquence sur scène. Et il avait un propos que je trouvais encore aujourd'hui très pertinent où il disait, le jeu vidéo. Ça peut être autre chose, ça peut dépasser ses propres codes et ses propres limites. J'étais là, genre bravo, génial, c'est génial. Mais quand tu vois la réalisation de ce projet-là, t'es là, genre, qu'est-ce qui s'est passé entre temps ?
Les propos, donc pas du jeu cette fois, mais de David Cage, là, tu vois, l'extrait d'interview que j'ai pu lire tout à l'heure, moi, quand je vois ses visions, je me dis, oui, pourquoi pas tendre un miroir au joueur ? Évidemment, j'ai joué à D3, je me dis, mais il n'y a aucun miroir qui n'est tendu au joueur à aucun moment, je trouve.
Non, il y a des coups de coude dans les côtes en permanence, ça, il n'y a pas de problème, mais alors des miroirs, pas vraiment.
On n'en a pas trop parlé, mais faut revenir quand même sur les affaires dont été qui ont entouré Quantic Dream à la sortie du jeu, toutes ces affaires de harcèlement, d'environnement toxique et tout. Moi, quand j'ai un jeu qui veut autant a priori me faire un peu la morale, aborder des thèmes genre le racisme, la Shoah et compagnie, et que derrière je sais que dans l'équipe ça se passe comme ça, alors bien sûr j'imagine qu'il y a plein d'autres équipes où ça se passe comme ça dans d'autres studios, il faut pas l'oublier, hein, mais tout de même il y a quand même quelque chose d'assez ironique, mais pas, vous savez, je souris pas, je suis un petit peu amer quand même quand je vois toute l'ambition, tout ce qu'on veut me déverser sur la tronche pour me dire eh, regarde hein, les robots, t'as vu les humains comme ils les traitent, et que j'entends que derrière ça, comment ça se passe dans le studio, je peux pas m'empêcher quand même de me dire que ce jeu-là, en plus, il manque un peu de sincérité, tout simplement, tu vois, puisque de toute façon, il veut toucher à tout. J'ai vraiment l'impression d'une espèce de jeu qui veut absolument faire une espèce de grande œuvre humaniste, très, très ambitieuse, genre, voilà, la grande leçon, tu vois, le grand truc qui rassemble tout le monde, mais alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Tout ce que t'as envie, c'est de m'émotionner avec des espèces de situations dures, genre, balance-moi la Shoah, c'est bon, j'ai déjà vu Nuit et Brouillard, tu vois, ça m'a mis KO, mais pas là.
Et du coup, c'est l'extrême opposé, tu vois, quand on se souvient, on avait parlé de Céleste dans le premier épisode, on avait expliqué que Thorson, pour lui, c'était un jeu qui se voulait bienveillant, et donc c'était son intention, et il avait été au bout du bout de son histoire, en se disant, tiens, on va penser à des menus qui sont bienveillants, on va penser à des situations qui sont bienveillantes, enfin bref, etc., on va pas refaire l'épisode, réécoutez-le si vous voulez, mais c'était exactement l'opposé, c'est que là, du coup, lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? C'est finalement ça. Son postulat, c'est je veux dire, je vais vous mettre un miroir, je vais vous faire réfléchir. Mais non, au final, tu nous fais pas réfléchir. Parce qu'en fait, comme ton monde ne s'appuie pas sur des règles, que tes situations sont clichés, que tes personnages sont pas écrits correctement, et que du coup, les situations deviennent incohérentes, au final, nous, on sait pas quoi en retirer. Et c'est dommage, parce que c'est un tel débordement de prouesses techniques, puisqu'on en a pas parlé, mais le jeu, visuellement, il est quand même assez impressionnant. La performance des différents acteurs, même si la direction d'acteur, elle est pas incroyable, malgré tout, on sent quand même qu'il y a eu un sacré travail et que c'est des gens qui sont très talentueux derrière tout ça, pour ça, finalement, tout ça pour ça. Moi, c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que je me dis tout ça pour ça, et en plus, comme tu l'as dit, derrière, en fond, tu te dis, et en plus, c'est une équipe où à l'intérieur, on sait que ça se passe pas très bien, ils bossent comme des damnés, etc. On sait que c'est un peu la réalité aujourd'hui dans les studios, et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est intéressant, c'est que finalement, on assiste un peu, tu vois, à une espèce de levée des trucs sociaux, etc., et de la justice sociale dans l'industrie du jeu vidéo. Eux, ils font un jeu pour en parler, ils se plantent complètement, et en plus, ils se font prendre la main dans le sac parce qu'ils ont des problèmes avec ça.
Et ils portent quand même contre la presse qui révèle.
Et en plus de ça, mais pas Canard PC. Que Mediapart et Le Monde, parce que pourquoi pas.
Donc aucune cohérence en fait, jusque dans le studio, et toutes les décisions qui sont prises. Quoi.
Et là, du coup, en plus, ils vont se séparer de Sony. Est-ce que c'est parce que justement il y a eu ces affaires et que Sony n'a pas trop envie d'avoir une espèce de vilain petit canard dans son giron ? Ça, on le sait, les gros studios et les constructeurs, a priori, sont très prompts à virer des gens instantanément au moindre soupçon de scandale ou quoi que ce soit, pour éviter de toucher à l'image de marque, ils peuvent s'en séparer.
Ou est-ce que tout simplement c'est du business, parce que finalement, ils avaient un compte 3 sur 3 jeux, même si D3 approche les 3 millions de ventes, là quand on regarde les dernières grosses sorties de Sony, il y a eu des grosses performances dans les ventes, tu te dis, Sony, de toute façon, ils sont en train d'envisager un petit peu comment ils vont placer leur échiquier là pour la PlayStation 5, et leur échiquier, tous leurs gros pions, c'est qui ? C'est les gros studios. Est-ce que Quantic Dream méritait d'être sur cet échiquier? Je sais pas.
Et comme on l'a dit, en fait, à une époque, ça pouvait être un certain but d'estime, ouais, en fait, d'avoir Quantic Dream dans ton écurie, parce qu'il y avait une image, justement, un petit peu, bah, nous, on va faire du jeu vidéo différemment. Mmh. Et comme on l'a dit, il y a plein d'autres jeux qui font mieux de façon différente, qui savent vraiment écrire de façon intéressante des histoires. Et il a même plus, en fait, l'estime qu'il pouvait avoir, en tout cas,
plus l'image que j'ai. Il a plus ce côté unique, genre, oui, voilà, si tu veux vraiment des histoires dans le jeu vidéo, des trucs, tu vas là, quoi, parce que c'est plus le cas, effectivement.
Ah oui, c'est plutôt le déclin, ouais, ouais. Même, tu vois, sur cette image qui pouvait déjà être contestée, mais là, il y a même plus ça, quoi.
Oui, parce que du coup, ils sont arrivés au bout de leur formule de base, qui était celle des V-Rain, sauf qu'entre-temps, le jeu vidéo a évolué, et aujourd'hui, c'est plus aussi pertinent. Leurs propos restent pertinents, mais la façon dont ils le font est complètement dépassée. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec l'arrivée de NetEase, qui est quand même un titan chinois, donc c'est un peu surprenant, parce que NetEase, juste pour refiler le contexte, là, en l'espace de quelques semaines, on a su que c'était eux qui étaient en train de maintenir Blizzard et qui ont plus ou moins poussé à sortir Diablo Immortal. On sait que c'est également eux qui ont permis à Bungie de se séparer d'Activision, ouais, puisqu'ils ont injecté 100 millions de dollars pour un nouveau projet en marge de Destiny 2. Et là, on sait que Quantic Dream, maintenant, vient d'associer avec eux. Donc aujourd'hui, dans le paysage vidéoludique, dès qu'on réfléchit un petit peu, tu vois, ils parlaient de Cyberlife, ils n'en ont pas fait une espèce de gros conglomérat, ils auraient pu, parce que quelque part, on est en train d'avoir Tencent d'un côté, ouais, et NetEase de l'autre, qui sont en train de racheter le monde du jeu vidéo à vitesse grand V. Est-ce que c'est bien ou pas? Pour l'instant, on peut pas encore le dire. Maintenant, le fait que Quantic Dream essaye de sortir des jeux peut-être plus rapidement, moi, ce que j'espère, c'est que ça va leur permettre de peut-être être moins ambitieux, et en revoyant leurs ambitions à la baisse, peut-être qu'ils vont être plus justes. C'est tout ce que je leur souhaite.
Tout à fait. Je crois qu'on a tout dit là-dessus. Je pense pas qu'on a tout dit, parce qu'on aurait pu passer des heures.
Ça fait longtemps qu'on y est. J'ai encore des clichés qui sont notés, que j'ai pas cités, mais peut-être sur le Discord.
Si vous voulez, on en discutera sur le Discord. Si vous nous écoutez encore jusqu'ici. On se retrouve donc sur le Discord. Le lien sera dans la description de l'épisode. Donc retrouvez-nous là pour faire un petit peu une espèce de club de lecture. Vous pourrez savoir du coup des jeux dont on va parler dans la suite. Et puis on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game.
Salut.
Ciao.
Ciao.